consommant 25% du glucose que nous absorbons, tellement puissant qu'il a dû se doter de circonvolutions pour rentrer dans la boîte crânienne, le cortex règne en maître absolu dans l'étude de la conscience humaine. Pourtant, en observant l'embryologie, on s'aperçoit que l'intestin le précède, habitat d'un microbiote dont on sait aujourd'hui qu'il influence nos émotions, envies et désirs. Et voilà que la découverte du système nerveux intracardiaque porte le coup de grâce à cette vision réductionniste du foyer de la pensée humaine. Doté de seulement 40 000 neurones, il est pourtant capable d'émettre un champ électromagnétique puissant qui traverse les frontières du corps jusqu'à influencer les autres autour de lui. D'ailleurs, quelles frontières ? Aux origines du Big Bang, il n'y avait qu'un seul atome qui, en explosant, a donné naissance à l'univers. Nous sommes donc tous le fruit des mêmes particules élémentaires, dont la physique quantique nous prouve aujourd'hui la mystérieuse intrication. Naviguant entre physiologie, physique et philosophie, Pierre Etchart nous invite dans cet épisode poétique à repenser les fondements de notre compréhension du monde. Des enseignements riches de sens, qui réveillent sous le prisme de la science, une forme de sagesse ancestrale depuis trop longtemps oubliée. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Pierre.
Bonjour David.
Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le Limitless Project après notre petit essai hier avorté à cause de problèmes de connexion. Comme je te le disais, j'ai découvert ton travail à l'occasion du Festival du Potentiel Humain de notre ami Pierre Dufraisse. Oui. Tu as animé une conférence passionnante sur laquelle on va revenir. Mais avant de démarrer, je te propose de faire un petit check-in en partageant l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
Alors, ce matin, comme les derniers jours de ces trois dernières semaines, je suis dans une énergie vraiment très qui est imprégnée en fait de cohésion. C'est-à-dire que j'ai fait un travail là de promotion, on va dire, par rapport à mon académie. Et effectivement, il y a une telle originalité en fait dans ce que je propose, qu'on se rend compte finalement que les gens ne sont pas forcément habitués à ce genre de choses et donc du coup ne sont pas forcément prêts, alors que c'est vraiment le moment de poser ces choses là et du coup j'ai vraiment un élan pour amener les gens dans cet univers et leur permettre en fait de d'accéder à ce qui moi me semble aujourd'hui en 2023 véritablement le plus fondamental. C'est-à-dire que tout ce qui vient à côté ne saurait avoir suffisamment de saveur ou de valeur si nous n'avons pas les bases qui sont indispensables. Et donc je suis dans une énergie vraiment de cohésion parce que je relis, je vais voir les gens, je discute beaucoup, j'échange comme avec toi en ce moment pour pouvoir justement essayer de créer des ponts et de faire en sorte en fait que l'on puisse partager des choses ensemble.
Justement, en parlant de ponts, on va en faire pas mal dans cet épisode puisqu'on va parler de biologie, de physiologie, mais aussi de physique quantique, de savoir, d'environnement, de bonheur, d'alignement, puisque en fait c'est de ça dont tu nous parles là. Ce qui t'excite et ce qui te rend aussi heureux, c'est le sentiment d'être à ta place et d'être un vecteur de transmission de quelque chose qui te semble complètement fou et important d'être compris et diffusé dans la population. De mon côté, tu vois, je te fais aussi mon petit check-in. Je suis un petit peu dans le même genre d'énergie parce que j'organise le festival Limitless Project qui va démarrer dans deux jours puisqu'on est on enregistre mercredi, il démarre vendredi. C'est un projet bénévole donc je gagne pas d'argent dessus, mais par contre il me remplit au plus haut point d'un point de vue personnel parce que je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir réunir des gens passionnés par les mêmes sujets qui vibrent aux mêmes fréquences ensemble dans un chalet d'alpage de haute montagne, non pas de haute montagne, mais dans un chalet d'alpage complètement coupé de la civilisation, tu vois, il n'y a même pas de connexion internet. Et on va profiter de conférences, d'ateliers autour du mouvement, de réflexions autour de discussions un petit peu philosophiques, de moments de partage. Et donc je suis très enthousiaste, très excité à l'idée de partager ces moments-là avec ma communauté, avec mes auditeurs, et puis de pouvoir réunir aussi des amis. Tu connais Pierre Dufraisse par exemple, mais il y en aura d'autres que tu as vu d'ailleurs au Festival des Humains, tels que Stave, Slim, Jérémy Coron, etc. Donc voilà, je me réjouis de ces moments passés et partagés. Et donc voilà, donc je suis aussi plein de cette belle énergie et impatient. Je me réjouis, tu vois, de ce week-end. Tu parlais de faire des ponts dans la conférence justement que tu as animée au Festival du Potentiel Humain. Tu as parlé du système nerveux intracardiaque. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai l'impression que dans l'histoire un petit peu de l'étude de la conscience, dans cette volonté de partitionner le corps dans des cases, on s'est beaucoup concentré sur le cortex. Et puis après est arrivé ce qu'on a appelé le second cerveau, ce fameux microbiote qui pourrait être le siège de nos émotions et qui pourrait conditionner certains de nos comportements, notamment de nos envies alimentaires, etc. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau système cardiaque, un nouveau cerveau, pardon, pas un nouveau système cardiaque, un nouveau cerveau qui arrive, qui est le cerveau du cœur. On a découvert qu'il y avait des neurones sur le cœur et qu'ils avaient des propriétés assez incroyables jusqu'à être capables de générer un champ électromagnétique qui sort du corps. Donc, qui dépasse et qui redéfinit la notion d'être humain, tu vois, les frontières de notre physicalité. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment est-ce que tu l'as découvert et les implications que ça comporte ?
Alors oui, donc je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit parce que c'est très important parce que tu sais que moi mon travail consiste surtout à travailler sur les représentations que nous avons parce que les représentations que nous avons déterminent ce que nous croyons et donc c'est eux qui pilotent ce que nous décidons de faire et comment nous le faisons. D'accord ? C'est-à-dire que on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Oui. Tu vois, c'est vrai, on est vraiment là-dedans. Et donc, je vais vraiment revenir sur ce que tu as dit parce que c'est très important parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose si on les décortique un tout petit peu. Lorsque tu dis effectivement que on avait d'abord on s'était focalisé sur le cerveau donc cérébral et que par la suite on a découvert justement le tout ce qui est dimension du biote intestinal et donc que c'était le deuxième cerveau. Quand on parle de deuxième cerveau, il faut bien comprendre quelle est la propriété de cette notion de deuxième. Deuxième cerveau, on ne parle pas d'ordre d'importance, on parle d'ordre d'apparition dans notre compréhension des choses. Donc déjà, il y a deux biais, c'est-à-dire que il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, c'est juste le deuxième dans la façon dont nous avons découvert, mais surtout nous avons compris les choses. C'est-à-dire que nous avons le fait que le biote avait cette propriété, si tu veux, cérébrale, mais il était là depuis tout le temps. C'est juste nous qui l'avons compris très tard.
Bien sûr.
Tu vois ? Et donc, quand c'est présenté souvent comme le deuxième cerveau, en fait, que veut dire deuxième cerveau ? Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ça, parce que si on accepte effectivement que c'est le deuxième cerveau, on accepte inconsciemment de rester dans le premier paradigme et de ne pas accepter qu'il y a une véritable révolution, c'est-à-dire qu'il y a une véritable cassure dans notre façon de représenter le vivant. Et donc, on est un peu timide, on dit « Ah oui, on a compris quelque chose, mais bon, ce n'est qu'une extension de ce qu'on a déjà compris. » Non, non. Ce qu'on a découvert, ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire que ça redistribue les cartes. Et c'est ce pas-là qu'il faut arriver à franchir. Et qu'on ne le franchit pas, parce qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, on relativise, ou alors on dit que c'est juste des légères adjonctions supplémentaires.
Ouais, un add-on, un plugin, quoi.
Exactement. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est tout le problème de la physique quantique. Aujourd'hui, ce qui empêche les gens de vraiment rentrer dedans, et ça, on l'a vraiment pu le voir justement au centre, au CNH avec Pierre, parce que j'ai fait toute une formation sur la physique quantique, on voit que ce qui est déterminant à comprendre, c'est que la physique quantique, par rapport à la physique classique, c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est-à-dire qu'on ne garde pas quelques petits concepts qu'on avait déjà compris, puis on rajoute des petites choses autour, quelques bizarreries, tu sais, de la physique quantique, et puis voilà. Non, non, la vraie révolution, elle n'est pas là. La vraie révolution, c'est que tout ce qui est dit dans la physique classique n'est plus valable. Donc en gros, vous prenez vos lunettes, vous les changez. C'est pas juste vous modifier un petit peu, vous essuyer un peu. Non, non, vous changez complètement votre regard. Et donc là, par rapport par rapport à ce que tu expliquais par rapport au deuxième cerveau, c'est très très important parce que si moi je prends par exemple, et ça c'est pareil, au CNH, j'ai donné une formation justement sur l'embryologie. Quand on l'étudie d'un point de vue embryologique, on pourrait se demander justement si l'intestin n'est pas le premier cerveau. Parce que justement, dans l'ordre d'apparition et dans la dynamique du développement de l'embryogenèse, en fait, il y a une primauté réelle, c'est-à-dire tout part finalement de l'intestin. Donc, tu vois, une personne, un humain qui se représente, en considérant que le cerveau est ce qu'il fait de lui, ce qui est le plus humain, n'est pas du tout la même chose qu'une personne qui part, par exemple, qui imagine un intestin qui se développe et qui donne après secondairement un cerveau.
Et qui plus est, cet intestin qui est peuplé de ce qu'on qualifie comme non-soi, parce que c'est un tas de bactéries, de levures, etc., qui pourtant nous influencent, qui vivent de façon dynamique, dans un équilibre où l'un et l'autre, dans une forme de symbiose en réalité. Et donc ça pose clairement la question du soi, du non-soi, d'où vient la conscience. Est-ce que la conscience est humaine ou est-ce qu'elle est une interaction avec dynamique, avec son environnement et un tas de micro-organismes qui ont décidé de coopérer ensemble?
Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que l'on constate, c'est que justement, c'est de par la caractéristique que cette région viscérale intestinale contient cette grande densité de microbes, et bien en fait, c'est elle qui va permettre à la vie de croître et de se répandre. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où on le voit comme ça, on ne peut plus se représenter la notion de soi et de non-soi de la même façon. Tu vois? Et ça, c'est vraiment le cœur du travail de ce que je propose, en fait, l'année prochaine au sein de l'académie. C'est-à-dire que on va redéfinir les termes les plus éloquents du vivant. Là, on a parlé du soi, de non-soi, des microbes, des bactéries, tout ça. Au travers de ce que l'on sait véritablement en 2023. D'accord? Et non pas en restant sur des choses que l'on a découvert il y a longtemps et qui finalement on n'a fait que découvrir des petites choses. Non, il y a eu énormément de révolutions depuis ces découvertes-là, et il faut absolument les intégrer, mesurer leurs implications et du coup essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit sur ce que l'on croit savoir aujourd'hui. Et ça va avoir des conséquences énormes sur la façon que nous avons de nous représenter, nous, en tant qu'êtres humains. Et ça va nous donner aussi de nouvelles responsabilités en tant qu'êtres humains. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui, en 2023, on peut pas faire l'économie de ça. On peut pas faire l'économie de ça parce que nous avons des responsabilités. On le voit bien, hein, même, tu vois, au niveau... que ce soit au niveau humain, que ce soit sur l'impact que nous avons par rapport à tous les autres animaux sur notre environnement, nous avons des responsabilités. Et pour ça, moi en tout cas mon point de vue, c'est que il faut pas partir en guerre contre, tu vois, tous ces trucs extrêmes là où on entend que l'humain c'est le cancer de la planète et compagnie. Pour moi, c'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse. Pour moi, c'est l'humain est probablement la solution. Mais encore faut-il avoir l'humilité de se remettre en question et de vraiment se poser les bonnes questions. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui nous détruisons mutuellement, c'est parce que justement nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions et que nous avons une représentation de nous qui est totalement désenchantée, qui est totalement lisse, froid. Et ça, effectivement, ça donne pas envie de se battre en fait. Hein. Ça donne pas envie de donner la meilleure version de soi-même.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Je repars sur l'embryogenèse et t'as expliqué que l'estomac démarrait avant la construction et le développement du cerveau. Comment est-ce que, en partant de ce prisme, les trois cerveaux, sans proposer de hiérarchie, se créent et interagissent les uns avec les autres?
Alors, dans l'embryogenèse, il n'y a pas, c'est segmenté de cette façon-là, mais ça peut être interprété de différentes façons. C'est-à-dire que la chronologie, elle est quand même, les choses s'installent quand même relativement en même temps. D'accord? Par contre, l'accumulation des strates et des couches au niveau cérébral, si tu veux, sont totalement dépendantes du développement qui se fait notamment au niveau viscéral digestif. C'est-à-dire que les deux éléments sont interdépendants dans leur croissance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous qui avons hérité de cette vision mais qui a été amenée par Descartes finalement, hein, du réductionnisme, on a toujours cette tendance à vouloir séparer les choses et à vouloir les penser, les imaginer séparés du reste. Et c'est là où on crée en fait une image complètement fausse du vivant. Parce que imaginez par exemple, si je te parle du cerveau et de ses différentes caractéristiques, je serai dans l'erreur, ou en tout cas je ne serai pas dans le juste, si en même temps que je te parle du cerveau, je ne te parle pas du reste du corps. Parce que les caractéristiques justement que prennent chaque partie du corps dans les parties du cerveau sont totalement corrélées et dépendantes de ce qui se passe plus bas. Tu vois? Et donc c'est dans ce dynamisme-là, c'est-à-dire c'est dans cette vision global et dynamique que aujourd'hui on arrive à voir l'embryologie de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on l'a étudié de façon très réductionniste pendant de nombreuses années, mais maintenant les personnes qui ont décidé de reprendre ces travaux-là ont compris en fait l'importance de la systémie et de pouvoir étudier ça de façon beaucoup plus globale. Et d'ailleurs, c'était vraiment le sens de mon message lors du potentiel humain. Quand j'ai parlé du cœur, c'était justement pour montrer que vous ne pouvez pas parler en fait d'une autre partie du corps si vous ne parlez pas du cœur. Et vous devez en permanence prendre ce point d'appui au niveau de votre cœur si vous voulez comprendre comment se développe, comment grandit, comment agit, comment interagit, assimile votre cerveau. Et ça, c'est pas dans notre façon de penser. Parce que les deux, c'est deux éléments différents qu'on va mettre, pas qu'on va opposer, mais quand même, il y a des gens qui disent oui, moi je suis plus dans le mental, il y en a d'autres qui disent je suis plus dans le cœur. Mais ça, c'est une vision de l'esprit en fait. Vous pouvez pas les dissocier les deux. Vous pouvez pas les dissocier. Et je pense que cette vision réductionniste nous empêche de développer un potentiel plein.
Et encore, tu dis, ouais, on peut dire qu'on est plutôt dans le mental ou plutôt dans le cœur, mais en réalité, le cœur, ça reste souvent une métaphore. On n'imagine pas que c'est un organe qui peut avoir un impact sur la construction de nos émotions, ni même influencer les autres autour de soi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ta conférence, parce que je me considère comme un explorateur du potentiel humain. Je pars du principe que je ne sais rien et j'adore découvrir de nouvelles choses. Ces discussions viennent me nourrir par le terreau de réflexions riches qu'elles m'offrent, mais je vis aussi différentes expériences qui me font progresser sur mon propre chemin. Et notamment, j'ai été expérimenter l'ayahuasca dans une retraite en Suisse. Ouais. Avec Alison, avec qui j'ai enregistré d'ailleurs un épisode. Et moi qui suis plutôt très cartésien, très analytique, j'ai été touché par cette expérience qui m'a fait penser à un bain d'amour. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais les yeux fermés et j'avais la sensation de sentir l'amour des gens autour de moi comme si elle me percutait, comme si elle me touchait, alors qu'on ne se touchait pas, qu'on ne se parlait pas, qu'il faisait noir, que j'avais les yeux fermés. Ouais. Et donc, c'est resté une... simplement un sentiment, un ressenti. Et puis quand j'ai entendu ta conférence et cette idée que le système nerveux intracardiaque pouvait générer un champ extracorporel qui puisse toucher les autres et influencer leurs émotions, et que d'ailleurs tu avais pris l'exemple de la maman avec son bébé qui, malgré l'absence de contact physique, notamment par un tissu qui les séparerait, arrivait à synchroniser leur rythme, etc. Ça m'a marqué, tu vois, et ça a donné une espèce d'explication scientifique à un ressenti empirique que j'avais pu vivre par le passé.
C'est ça. Et tu vois, ce que tu dis est très intéressant parce que, justement, ce que je pense profondément, c'est que le travail dont je parle, tu vois, le fait de réajuster un petit peu tout ce que l'on croit savoir et de remettre à jour nos connaissances par rapport à tout ça, doit nous permettre, en fait, de prendre conscience et de ressentir tout ce dont tu viens de décrire, mais sans avoir à prendre d'éléments comme l'ayahuasca. C'est-à-dire que pour moi, l'ayahuasca aujourd'hui, ou d'autres, hein, même d'autres types de drogues, sont des substituts, en fait, parce que pour que les gens puissent retrouver un état qu'ils devraient avoir naturellement. Mais nos constructions mentales, c'est-à-dire les projections que nous faisons du monde dans lequel nous croyons vivre, font qu'en fait, on a créé une prison mentale nous-mêmes. Et ça nous empêche, en fait, du coup, de rayonner. Parce que c'est le but de la conférence que j'avais donnée, justement, c'était ça. C'est que les gens qui n'avaient pas assisté à la conférence avant de venir, ils n'avaient aucune conscience et de connaissance de ce champ, par exemple. D'accord ? Après ça, ils avaient conscience qu'en fait, sans même toucher quelqu'un, les personnes qui étaient assises à côté d'elles pendant la conférence, eh bien, en fait, avaient été forcément touchées par justement le chant que produisait leur cœur pendant la conférence. Et alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une énergie quand même très particulière pendant cette conférence. D'accord ? Complètement. Même moi, j'ai été extrêmement touché. Il y a eu même un moment où j'ai dû m'arrêter parce que je n'y arrivais plus. Mais c'était vraiment incroyable. Et là, on a mis en pratique ce que j'expliquais en théorie. Tu vois? Et ça, je pense que cet état-là, on n'a pas pris d'ayahuasca pendant la conférence. Et pourtant, on a touché du cœur, pas du doigt, mais on a touché du cœur un état que nous devons être capables, en fait, d'avoir au quotidien. Au quotidien, là c'était exceptionnel parce qu'on a tous été vraiment, on s'est tous synchronisés, mais on devrait pouvoir développer ça au quotidien. Sauf qu'on ne le fait pas, et l'une des raisons que moi j'avance, c'est l'idée que l'on projette du monde. C'est-à-dire que comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense, et que l'on pense que, par exemple, que ces choses-là n'existent pas, et que tout est séparé. Et que du coup, si moi, par exemple, je veux être en contact avec toi, je suis obligé de te voir, de te toucher ou de te parler. Mais ça change complètement ma représentation du monde. Alors que si je sais, effectivement, que nous sommes reliés par d'autres éléments beaucoup plus subtils et qu'il y a des moyens de communiquer et d'échanger de façon beaucoup plus intense, attends, tu te rends compte à quel point ça change notre façon de voir le monde. Et donc, ça nous donne une autre vision de nous-mêmes, ça nous donne une autre vision de l'autre. Et donc, ça nous donne une autre vision du lien qu'il y a entre toi et moi. On se rend compte finalement que l'autre n'est qu'une extension de soi.
Complètement, complètement. Oui. Mais cette idée que le réel n'existe pas, donc je pense qu'on peut déjà partir de là. Tu vois, le cerveau, c'est comme s'il était dans une boîte noire, et puis il est connecté à différents sens qui lui permettent d'interagir avec son environnement et de s'en créer une représentation.
C'est ça.
Et il mélange déjà des processus mentaux, c'est-à-dire ses croyances, des souvenirs passés, etc., avec ce qu'il perçoit de son environnement extérieur. Et donc, ta vision du réel est complètement différente de la mienne. Et en Exactement. Réalité, le réel n'existe pas et est largement conditionné par nos représentations, nos croyances, etc. Donc ça, c'est une première base. Et la seconde, c'est que je pense qu'on est quand même biologiquement designé pour la survie. C'est quand même notre objectif primaire, la survie, se reproduire, et donc maximiser les ressources qu'on peut obtenir, le statut social qui nous permettra de mieux nous reproduire. Et dans ce contexte-là, dans cet objectif-là, le cerveau analytique permet d'atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs que le cœur. Et c'est probablement la raison pour laquelle, dans nos sociétés, on a eu tendance à offrir à laisser aux commandes beaucoup plus le cerveau que le cœur, parce que maximiser notre potentiel d'atteindre ces objectifs de maximisation des ressources et de statut social. Et est-ce que permet des choses comme l'ayahuasca ou ta conférence, parce que effectivement j'ai pris l'exemple de l'ayahuasca parce que je trouvais qu'il était intéressant, mais depuis c'est comme si ça avait libéré des barrières qui existait entre mon cœur et ma tête, justement. Ouais. Et c'est des états que j'ai pu ressentir et revivre sans prise d'aucune substance exogène. Par exemple, quand j'ai été faire du yoga Tummo en Italie, ouais. ou dans certains contextes, ou pendant ta conférence, ou même pendant des moments de respiration, ou même pendant des moments tout à fait anodins, comme si j'avais réussi à rétablir une connexion entre les deux qui ouais. avait été coupée. Je pense qu'elle a été coupée pour deux raisons. Déjà, par ambition, parce que la voie la plus sûre d'atteindre mes objectifs, on va dire, financiers et de réussite était de laisser ma tête diriger. Ça, c'est la première. Et puis, la deuxième, c'est aussi une notion de protection. Parce que, en tout cas, pour ma part, et je pense ne pas être le seul, l'enfance est parfois traumatisante, que ce soit par sa confrontation vis-à-vis des autres, ou même par rapport à son contexte familial, etc. Je pense que c'est une période de construction qui peut laisser des blessures. Et un des processus de survie, de protection, c'est peut-être justement de se blinder derrière une armure de fer blanc. Et en réalité, une fois adulte, être capable de la laisser tomber, c'est ce qui nous permet de devenir peut-être réellement libre et puis de redéfinir notre alignement. On parlait au tout début de ce podcast de cette notion d'alignement, de faire quelque chose où on se sent à sa place. Ben, se sentir à sa place, c'est peut-être justement faire confiance à son cœur, comme dirait Nicolas Aignon, vibrer plutôt que planifier, faire confiance à l'univers aussi, dans sa capacité à nous emmener vers le meilleur de notre potentiel. Et le meilleur de notre potentiel n'est pas forcément celui qui maximisera nos ressources, mais celui qui nous épanouira et nous permettra de vibrer avec les autres autour de nous.
Oui. Mais par extension de ce que je te disais tout à l'heure, faire confiance à l'univers, finalement, c'est faire confiance à nous-mêmes. Hein.
Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, ma conception de cette loi de l'attraction, c'est que au niveau cellulaire, c'est comme si on pourrait presque imaginer. Joe Dispenza qui dit ça dans la biologie des croyances, qui dit que ce qu'on pense modifie notre épigénétique et permet à notre corps de se mettre en disposition pour atteindre les objectifs qu'on vise. Donc, d'un point de vue cellulaire, le fait de faire confiance à l'univers, d'une certaine façon, ça permet aux cellules d'être prêtes à faire ce pourquoi elles devront être amenées à, enfin, ce pourquoi, enfin, faire face aux défis qu'elles pourraient être amenées à relever. Donc ça, c'est sur le point de vue cellulaire. Ensuite, le fait d'être aligné vis-à-vis de quelque chose qui nous fait vibrer, eh bien, je pense que ce qui permet la pleine expression de nos talents et de nos qualités naturelles, intrinsèques, qui ont toujours été là, tu vois, mais quand tu es dans ta zone de génie, ta zone d'excellence, quelque chose qui est à la parfaite adéquation entre tes qualités et ton alignement personnel, ta mission de vie, ben, tu peux rayonner. Et le fait de rayonner attire les autres autour de toi. Il y a quelque chose de magnétique qui donne envie aux autres de t'aider à réussir. Et donc, par ces trois faits-là, d'abord, du plus profond de soi-même jusqu'au fait de rayonner et les gens autour qui viennent partager leur énergie avec toi, eh ben, c'est la consécration de cette idée que l'univers te contribue à te faire réussir.
Alors, deux choses à dire par rapport à ça. Alors, tout d'abord, la biologie des croyances, c'est pas Joe Dispenza, c'est Bruce Lipton. Hein.
Pardon.
Juste pour les auditeurs. Ah non, mais je t'en prie, c'est juste pour les auditeurs si jamais ils veulent retrouver.
Mais je crois que Joe Dispenza, il en a parlé aussi dans un livre, peut-être Le Placebo, c'est vous.
Oui, voilà.
Qui revient à peu près au même
sujet.
Mais
la biologie des croyances, c'est vraiment Bruce Lipton. On peut pas lui enlever ça, hein, parce que c'est quand même une œuvre majeure, donc on peut pas lui enlever ça. Ce que tu dis par rapport à justement à cette notion de loi d'attraction, moi je le vois un tout petit peu différemment. C'est que la façon dont je comprends les choses, l'environnement, ce qu'on appelle les autres, en fait, n'est qu'une extension de nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas le fait que, au plus profond de nous, on veuille et donc on met en place les choses qu'il faut pour pouvoir rayonner, qui donne envie aux autres, si tu veux, de venir nous aider. C'est le simple fait que, à partir du moment où ça part de nous, donc moi je vais partir du cœur, à partir du moment où ça rayonne à partir du cœur, ben en fait, le rayonnement, il s'arrête pas à toi. Parce que l'autre est une extension de toi. Donc c'est comme dans un réseau, si tu veux, neuronal, l'information, le rayonnement se répand. Donc les autres, ils n'ont pas envie, ils sont entraînés en fait dans cette énergie-là. Donc c'est comme si tu générais un courant, une espèce de vortex, dans lequel les gens qui sont autour de toi sont attirés, sont aspirés. Tu vois ? Donc, mais c'est là où je parlais tout à l'heure justement de la prise de conscience des responsabilités que nous avons au niveau individuel quand on a une approche vraiment systémique et globale du vivant. Les implications sont très fortes, mais comme disait Spider-Man, hein, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ce que l'on constate aujourd'hui quand on étudie justement la biologie du 21e siècle, c'est que nous avons véritablement des super pouvoirs. Et ce que l'introduction que je vous ai faite par rapport au cœur lors du Festival du Potentiel Humain est l'un des aspects, justement, la première brique, si tu veux, de tout ce qu'on va aborder, justement, au sein de l'académie, où on va énumérer l'ensemble des révolutions scientifiques comme ça qui ont été découvertes, mais qui n'ont absolument pas été intégrées. Absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait comme si ça avait été juste une petite découverte comme ça, mais on n'a pas mesuré les implications et les conséquences d'une telle découverte. Tu vois bien qu'aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai dit sur le cœur, bon ben, par exemple, le détail, ça n'est pas un, mais le détail, que le cœur, justement, est une glande endocrine. C'est quand même quelque chose qui date de 1981, cette découverte. D'accord? Mais aujourd'hui, lorsque tu prends les livres, les ouvrages de physiologie, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je suis désolé, tu ne te représentes pas un cœur de la même façon si c'est juste une pompe qui bat ou si c'est aussi un organe qui permet justement de produire certaines hormones et pas des moindres, comme on l'a vu pendant la conférence.
Tu peux revenir dessus, hein, parce que nos auditeurs n'ont pas forcément vu la conférence.
Ah, mais ils vont pouvoir aller la voir, parce qu'elle va être mise en ligne là, dans quelques jours.
Ok. Mais t'as raison pour avoir lu par exemple Marieb, physiologie et anatomie humaine, tout est hyper cloisonné de toute façon. Exactement. T'étudies les systèmes les uns après les autres et t'as une petite page à la fin de chaque chapitre qui montre une petite interaction systémique avec les autres systèmes du corps. Mais c'est quand même extrêmement cloisonné, extrêmement casé dans des cases. Et on y reviendra après entre sur cette question d'hyper spécialisation, etc. Mais je voudrais quand même terminer sur ce que tu partages au niveau du cœur, de l'interaction avec les autres, parce que je trouve ça quand même vraiment fondamental. Oui. Tu vois, on pourrait faire une métaphore d'ailleurs et se dire que, au final, un organisme vivant, c'est des milliards de cellules qui coordonnent leurs efforts, qui cohabitent ensemble pour permettre à l'organisme de vivre et maximiser ensemble leur capacité de survivre et de se reproduire. Ces mêmes cellules, en fait, elles interagissent avec des microbes. On l'a vu via notre microbiote, etc. Donc, il y a toujours cette interaction dynamique avec l'extérieur. Et on a parlé du microbiote intestinal, mais on pourrait parler du microbiote de la peau. En fait, en réalité, on est toujours en interaction dynamique avec notre environnement, avec l'air qu'on respire, qui vient aussi à l'intérieur de nous, avec les aliments qui nous nourrissent. Enfin, il y a toujours cette interaction. Tu vois, il y a la frontière entre l'unicité du vivant et son environnement est assez ténue. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est que elle est tellement ténue qu'en réalité, nous sommes les autres et que nous sommes aussi de la même façon que nos cellules intestinales sont en interaction dynamique avec les microbes du microbiote, nous sommes êtres humains en interaction dynamique avec les personnes qui sont autour de nous. Et on les influence et ils nous influencent de façon dynamique constamment. C'est ça que tu dis ?
Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Et tu vois, l'un des grands problèmes, et d'ailleurs, je reviens toujours sur ça, je suis désolé, mais c'est vraiment le cas, parce que quand j'en parle, à chaque fois, je m'en rends compte à quel point. Mais ça sera vraiment le cœur de ce qu'on va travailler au sein de l'académie, c'est-à-dire que ce que j'explique, c'est que ces découvertes, on a eu énormément de découvertes scientifiques, mais majeures. Donc là, toi, par exemple, tu parles du biote intestinal, d'accord ? Ça a été vraiment une révolution. Mais ça n'a pas eu l'impact dans la société, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est ce pourquoi, moi, que je vais traiter et que je souhaite corriger. C'est tout simplement parce qu'en fait, on s'est arrêté à une description superficielle. Ce qui fait que les gens, en fait, n'ont pas compris de façon, je dirais, précise ce qu'il en était. Et donc, ils ont été incapables de mesurer quelles étaient les implications. Or, ce sont toujours les implications qui sont importantes. Et justement, pour revenir à l'ouvrage de Bruce Lipton, justement, lui, il en parle de ses implications. Et il explique que, à partir du moment où justement on a commencé à prendre la mesure de de la densité de ce biote, hein, qui est quand même astronomique, eh bien, en fait, on se rendait compte que il était de plus en plus difficile, et c'est ça qui est important, qu'il était de plus en plus difficile de faire des différences nettes entre les espèces. C'est-à-dire, à quel moment commence telle espèce et à quel moment est-ce que commence l'autre. C'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que plus on apprend de choses, plus on a de détails sur ces biotes, plus on se rend compte en fait que les séparations que nous avions faites précédemment sur les espèces, bien en fait, c'est une conception, c'est vraiment une construction de notre façon de penser. Et donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait d'étudier ces choses-là, ça va nous amener à reconsidérer totalement ce qui est le soi et le non-soi, sur lequel va être fondé tout le paradigme sur le système immunitaire. Donc, les conséquences, en fait, elles sont énormes, parce que moi, ce que je peux te dire déjà aujourd'hui, alors je le pose là, mais au sein de l'académie, si tu veux, j'explique comment historiquement les idées se sont développées et pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de dire ce que je dis là. Mais la peau, parce que tu parles de ce sujet-là, qui est un sujet fondamental, la peau n'est pas quelque chose, en fait, si tu veux, d'hermétique et qui cloisonne. Aujourd'hui, on peut plus dire ça. La peau, c'est une interface. C'est une interface. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de générer l'un des besoins, écoute bien, l'un des besoins les plus importants du vivant. Et tu sais lequel c'est ? C'est le lien. C'est le lien. C'est-à-dire que l'interface va permettre, en fait, de connecter des informations avec l'environnement et de pouvoir justement nous permettre de créer du lien. Parce que là où toi tu parles de reproduction, moi j'y vois en fait du lien. Tu vois, je vois une relation avant de voir... La reproduction, c'est la conséquence. D'accord ? Mais ce qu'il y a d'abord, c'est la relation. C'est-à-dire qu'on a ce besoin en tant qu'humain, en tant que vivant, de se relier à l'autre pour se reproduire.
Mais pour on survivre a aussi.
Pardon ?
Pour survivre aussi, à l'époque, ça répondait à un besoin élémentaire de survie que de faire partie du clan, parce que si tu étais isolé dehors, tu te faisais bouffer par un tigre à dents de sabre.
Exactement. Donc, notre survie dépend essentiellement
de l'autre,
de la qualité de nos relations. C'est-à-dire notre capacité à créer des liens qualitatifs pour manger, pour trouver un bon endroit pour dormir, pour se protéger, pour se reproduire, pour tout ça, et bien c'est ça qui va déterminer la qualité non seulement de notre vie, mais aussi de tout ce que l'on va produire. Parce qu'on va pas avoir la même énergie, la même propension à s'incarner lorsqu'on a des relations qualitatives que lorsqu'on est reclus et qu'on n'a aucune relation. Tu vois ?
Et d'ailleurs, dans cette vision de la peau telle qu'une interface, on sait très bien que le contact physique, même lorsqu'il n'est pas consenti, sécrète d'ocytocine.
Exactement, mais bien sûr. Et donc, on y reviendra en très très grand détail pendant la formation, mais ce dont je suis en train de parler là par rapport à l'interface, c'est la conséquence de la grande révolution de ce qu'avait généré justement Bruce Lipton. D'accord ? Donc je le rappelle quand même pour les gens qui n'ont pas lu ces études-là, c'est quand même il a démontré que dans une cellule, enfin que la cellule pouvait survivre sans noyau, d'accord ? Alors que le noyau jusqu'à présent c'était vraiment le cœur si tu veux de la cellule, c'est-à-dire que si tu enlèves le noyau, ben la cellule elle meurt forcément. Or, pas du tout, on s'est rendu compte que le noyau avait essentiellement un rôle, justement, de reproduction. Mais par contre, même si elle ne se reproduit pas, la cellule, elle survit très 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 longtemps sans noyau. Par contre, si tu lui laisses le noyau, mais que tu obstrues ou que tu lui retires son interface, c'est-à-dire sa peau, elle décède immédiatement. D'accord ? C'est-à-dire que la durée de survie, on va dire, d'une cellule, donc qui est, en fait, on peut nous se représenter en termes de cellule, mais à plus petite échelle, mais en fait, si on nous enlève le noyau, on peut survivre. C'est comme si nous, en fait, à notre échelle, on pouvait simplement pas se reproduire. D'accord? Par contre, si on enlève la peau, mais en fait, impossible de vivre. La cellule, elle s'autodétruit immédiatement.
D'ailleurs, ça rejoint un petit peu les hypothèses sur les origines de la vie, où à la base, ça a été des petites bulles de corps gras qui se sont formées et qui petit à petit ont permis l'émergence d'acides nucléiques, etc., qui se sont associés les uns aux autres. Mais la première chose à avoir existé, c'était cette espèce de pré-cytoplasme lié à des corps gras.
En tout cas, ce que l'on constate clairement aujourd'hui, c'est que le développement du vivant se fait au travers de la qualité des relations qu'il arrive à mettre en place. Voilà. Ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment évident. Et d'ailleurs, on le voit à l'échelle du biote intestinal. On voit bien que la façon dont vont se développer soit certaines pathologies, soit justement certaines capacité à même digérer des choses qui peuvent paraître complètement indigestes dans certains cas très 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 atypiques. En fait, c'est lié au niveau de coopération de ce biote-là. Donc, en fonction des connexions que font les biotes, que l'on peut représenter finalement comme des petits humains, tu vois, en fonction des liens et des relations qu'ils décident de créer entre eux, en fait, ils vont permettre à certaines propriétés d'émerger. Et de faire justement que le vivant évolue vers de nouveaux avec des nouvelles capacités, des nouvelles caractéristiques. Mais c'est toujours la qualité de cette relation qui est déterminante, qui est vraiment au cœur et au centre de tout.
Et tu disais tout à l'heure que la révolution autour du biote avait été mal comprise parce que simplement descriptive. Peut-être qu'il y a aussi le fait que ça reste des concepts qui semblent théoriques et qui sont difficiles à appréhender d'un point de vue pratique, d'un point de vue physique. Bien sûr, la façon dont on l'a appréhendé, c'était de prendre des prébiotiques, des probiotiques et puis boire du kéfir. Mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin que ça, même là, ce que tu es en train de dire sur la frontière entre les espèces, c'est difficile, je pense, pour un cerveau humain de l'appréhender. Ne serait-ce que parce que les notions d'infini sont des choses qu'on n'est pas capable de conceptualiser. Tu vois, l'idée de se dire que vis-à-vis de la notion du temps ou de l'espace, tu vois, tu te dis, OK, la planète Terre, elle est dans la galaxie, elle est dans l'univers, mais l'univers, il est dans quoi? Il est dans rien, c'est tout. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'appréhender. De même que le temps, même si on considère que Dieu a créé le monde, qui a créé Dieu? Enfin, t'es obligé, en fait, t'es face à un non-sens, t'es obligé d'accepter la notion d'infini. En même temps, c'est un concept qui est pas acceptable pour un cerveau humain mathématique. Et donc, je pense que c'est ce qui rend difficile le fait d'appréhender les concepts que tu proposes. Est-ce que tu aurais des idées pour les rendre justement plus concrets sur la façon dont ils pourraient rayonner dans notre vie de tous les jours et sur la façon dont on pourrait l'expérimenter nous-mêmes, tu vois, justement sans prendre d'ayahuasca, mais simplement en interagissant de façon plus qualitative avec les autres?
Mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la seule solution pour moi, et c'est la solution que je propose justement pour l'année prochaine, c'est qu'en fait il faut prendre le temps de redéfinir absolument tous les termes pour savoir ce qu'ils signifient, ce qu'ils disent réellement et ce que l'on peut interpréter à partir de ça, parce que les mots qui sont bien définis, après ils permettent d'accéder à des concepts. Mais aujourd'hui, si tu veux, tu prends l'exemple de l'infini. Aujourd'hui, il est insaisissable, même pour certains mathématiciens, mais il est pour les non-mathématiciens, c'est encore moins insaisissable parce que on part de rien en fait. C'est-à-dire qu'on a défini aucun terme en avant. Pour nous, l'infini, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne se finit pas. Et c'est pas du tout notre cerveau, il n'est pas fait pour penser comme ça.
Donc parce que tout ce qu'on voit est une frontière.
Mais exactement. Mais du coup, il faudrait définir pour pouvoir appréhender ça de façon beaucoup plus, je dirais, objective et ne pas se perdre. Il faudrait redéfinir les termes. Donc, l'infini, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'espace. Donc, il faudrait redéfinir l'espace. Mais à partir du moment où on redéfinit l'espace, il faut forcément redéfinir le temps. Tu vois? Et ainsi de suite. Et à partir du moment où on arrive à définir des concepts comme ça un à un, on peut donner une image différente et comprendre pourquoi ce qu'on ne comprenait pas en amont. Et l'infini, je trouve que c'est une excellente démonstration de ça, parce que tu ne peux pas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas expliquer. Si on veut revenir, par exemple, au cœur, par rapport à ce que je vous ai apporté lors de la conférence, bon, mais là, le fait de redéfinir les propriétés de cet organe nous permet de le penser différemment. Et donc, la personne qui sort effectivement de cette conférence, elle sait que, contrairement à ce qu'elle pensait, ben en fait, elle a un champ électromagnétique qui agit sur son environnement, donc sur ses, donc par exemple, une maman qui va rentrer chez elle, ben elle sait très bien que quand elle va se coucher dans le lit avec son mari le soir, d'accord, l'un à côté de l'autre, elle sait que son champ électromagnétique va interagir, va influer sur lui. Et ça allait plus loin, parce qu'après, moi, je vous ai parlé de l'esprit. Tu te souviens?
Tout à fait.
Et dans le, voilà. Parce que les deux vont ensemble, en fait. Et dans le cadre de l'esprit, je vous ai expliqué que ce que nous décidions de penser avait un impact sur la façon dont le cœur agissait sur sa fréquence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la personne qui va s'asseoir à côté d'une autre personne a une responsabilité parce qu'elle va transmettre une information en fonction de ce qu'elle décide de penser. Donc si elle décide, moi je me mets par exemple à côté de toi et je décide de penser à des choses horribles. D'accord? Bon, mais cette fréquence-là, tu vas en payer un petit peu le prix. C'est-à-dire tu vas le ressentir. Et donc moi j'ai une responsabilité par rapport à ça. Parce que quand on a des enfants, quand on a et que l'on pense que non, il suffit par exemple, ça c'est la partie qu'on va étudier sur le trauma, par exemple, tu vois, dans le cours. Eh bien, quand on est face à des enfants et qu'on se dit par exemple, ben tiens, j'ai une colère monstre en moi, mais pour préserver l'enfant, je vais la contenir, parce que du coup, je vais préserver l'enfant. Mais quand tu sais, du coup, ce que je vous ai apporté par rapport à l'esprit et au cœur, mais tu vois bien que ça fonctionne pas. Parce que cette colère-là, l'enfant va le ressentir. Et c'est pas parce que tu t'énerves pas sur l'enfant que l'enfant ne va pas payer le prix, si tu veux, de cette colère parce que les enfants sont des extensions de nous. Tu vois? Et donc, ça ne nous place pas au même endroit. Donc les gens qui pensent qu'il suffit de s'isoler par exemple pour remédier à des choses, en fait, parfois on peut pas faire autrement, mais on voit bien que c'est pas une solution. Parce que nous sommes des êtres de lien, en fait. Nous sommes des êtres de lien, nous cherchons du lien, sauf que nous devons chercher des liens de plus en plus qualitatifs. Donc tu vois, cette façon de mettre en pratique justement des concepts qui peuvent paraître un petit peu inaccessibles au départ, c'est ça. C'est expliquer que dans le cadre du trauma, par exemple, ce n'est pas simplement, bon, ben, c'est quelque chose qui te regarde toi, et puis c'est tout. Non, non. Ça regarde tout le monde, en fait. Tout le monde est impacté, dans la famille ou dans le localement. Tu vois?
Ouais, c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant ce que tu partages. Je vais commencer par rebondir sur la parentalité. Je suis encore peu expérimenté en la matière puisque ma fille a 2 ans et demi, mais pour autant, elle a déjà pu éprouver mes nerfs à quelques reprises.
Oui,
et évidemment, tu vois, je suis plutôt tourné vers une forme de communication non violente, bienveillante, et donc j'essaie toujours de discuter avec elle, etc. Et puis pour autant, bah, parfois, elle excède ma patience, surtout si j'ai été fatigué par une journée. Et donc voilà. Et donc dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ta colère à l'intérieur de toi? Et comme tu le dis très bien, au final, ça a l'impact même sans que tu t'en aperçoives. Ben, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et moi, j'essaie simplement, en fait, de lui dire ce que je ressens et lui dire, par exemple, écoute, là, j'ai pas eu de formation en tant que père. Je sais pas comment réagir. Je suis fatigué. Je me sens en colère. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bien évidemment, elle a 2 ans et demi, elle va pas me dire ce que je dois faire. Ouais. Mais quelque part, ça me permet d'extérioriser en étant tout à fait sincère et honnête avec elle. Et par ailleurs, j'ai remarqué déjà que bien avant d'être capable de s'exprimer, de parler, de faire des phrases, etc., elle avait une compréhension de son environnement, de ce qu'on lui disait, etc., extrêmement affûtée. Et que lui expliquer les choses, même si elle comprend pas tous les mots, tout le vocabulaire, a un impact sur sa capacité d'adhérer à ce que tu lui demandes. Un exemple tout con, tu vois, par exemple, tu lui dis « traverse pas la route ». Eh ben, ça va pas la percuter parce qu'elle comprend pas. Il y a pas de sens pour elle au fait de pas traverser la route. Par contre, si tu lui expliques qu'il y a des voitures qui roulent vite, qui vont peut-être pas faire attention à elle, et que elle risque d'avoir un gros bobo et qu'après il faudra aller à l'hôpital, etc. Là, elle comprend les conséquences et donc naturellement, elle est capable d'influer sur son comportement pour réagir de façon positive à son environnement, dans le sens que toi t'as érigé. Et donc là, c'est complètement différent d'une relation d'obligation et de soumission entre guillemets de l'enfant. Et d'ailleurs, si t'attends que ton enfant t'obéisse, bah en réalité, c'est une escalade toujours plus importante vers la violence, parce que s'il comprend pas le concept que tu lui imposes, eh bien, il va te désobéir. Donc toi, tu vas être obligé de durcir le ton, et puis après avoir durci le ton, tu vas lui dire d'aller dans sa chambre. Puis une fois qu'elle est dans sa chambre, eh ben, elle va vouloir sortir de sa chambre. Tu vas l'enfermer dans sa chambre. Et comme elle est enfermée dans sa chambre, elle va jeter tous ses jouets par terre. Et donc là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'énerves encore plus fort. Et donc, tu finis par la frapper. Ou même si tu lui la frappes pas, tu cries dessus. Et donc après, elle va effectivement t'obéir. Mais elle va t'obéir pourquoi? Parce qu'elle a peur de toi. Est-ce que c'est ça la relation que tu as envie d'avoir avec tes enfants? Bah non, moi clairement pas, tu vois. Et donc c'est ça ma vision de la parentalité bienveillante, même si parfois c'est à mauvaise presse, parce qu'on a l'impression que c'est la porte ouverte à tout. Ben, dans ma conception des choses, c'est pas la porte ouverte à tout, il faut un cadre, mais il faut expliquer le cadre. Et de ce que je peux constater de ma petite expérience en tant que papa, eh bien, si tu expliques la raison du cadre, tu as une adhésion qui est beaucoup beaucoup plus importante que si c'est simplement une discussion unilatérale. D'ailleurs, tu pourrais le faire le parallèle avec les entreprises. Je suis chef d'entreprise, j'ai toujours créé des boîtes, etc., avec des collaborateurs. Le fait de réinitialiser leur responsabilité en tant que maître, guide, gardien et entrepreneur de leur propre petite parcelle, de leur propre tâche, et donc de les considérer dans toutes leurs dimensions humaines et toutes leurs capacités d'exercer leurs qualités pour réaliser ce qu'ils doivent faire, et comprendre le sens et l'implication et l'intrication de ce qu'ils font dans l'organisme complet qu'est la société, eh bien, t'as une qualité de travail qui est bien différente de tu dois faire ça, et puis je vais te fixer des KPI, et puis après on va faire un rapport, et puis on va vérifier dans un tableau Excel si t'as bien atteint tes objectifs et si tout est OK, etc., et te faire pointer au début de la journée et en sortant le soir. Excuse-moi, je parle pas mal. Je sais pas si tu veux réagir là-dessus, mais sinon j'ai encore un autre truc à dire après sur l'influence avec les autres.
Ouais, moi je vais revenir quand même sur ce que tu disais par rapport aux enfants, parce que ça c'est quand même moi un domaine que j'affectionne particulièrement. Mais tu sais, les enfants sont très 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 surprenants, très 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 surprenants. Et cette image pour moi elle est vraiment idéale pour illustrer justement le propos précédent. L'escalade de violence dont tu parlais. Pour moi, elle n'est pas liée justement à une absence de communication, si tu veux, non violente. Pour moi, c'est pas vraiment là que ça se passe. Je dis pas que c'est un mauvais outil, hein, c'est un très bon outil, mais pour moi, c'est pas là que ça se passe. Parce que il y a une dimension, si tu veux, où on contient, on refoule un petit peu la façon dont nous vivons réellement les choses. Tu vois? Et là où je te dis que les enfants sont très surprenants, c'est que cette escalade, elle va avoir lieu si tu considères ou si tu projettes que les enfants, en fait, sont une espèce d'opposition, en fait, à ton état. Donc, je te rappelle ce que je te disais tout à l'heure, hein, par rapport à ce continuum de liens dans lequel nous vivons, c'est que pour moi, les enfants sont notre prolongement. Et donc, à partir du moment où on arrête d'être dans l'opposition et que l'on considère qu'en fait, les enfants, ce qu'ils veulent aussi, c'est trouver une solution, eh bien, en fait, les choses deviennent beaucoup plus simples. Moi, quand je suis dans ta situation, tu vois, quand je suis agacé, quand je suis énervé comme ça, ce que je fais, c'est que je ne contiens pas du tout, c'est que je le dis. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, mon garçon, Gabriel, je lui dis... Gabriel, là, je sens que ça commence à monter. Je commence à m'énerver là. Je sens que j'ai plus de patience. Là, je vais pas pouvoir. Et le fait de le verbaliser et de l'impliquer, parce que du coup, je lui explique, c'est-à-dire que je lui parle, on dirait comme à un adulte, si tu veux. Tu vois, je lui parle pas comme un bébé. Je dis là, tu vois, je ne peux pas, je suis pas bien. Et bien en fait, systématiquement, quand je dis ça, il trouve la solution. Il me dit, bon, papa, écoute, j'ai la solution. Il me fait un énorme câlin. Il me fait un bisou. Mais vraiment, il me prend dans ses bras. Il me fait un bisou. Et il me dit, écoute, je continue à te faire des bisous jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais vraiment, et il me fait ça systématiquement. Et ça résout à chaque fois le problème. Mais Alors, je ne dis pas que ça peut à chaque fois fonctionner comme ça, parce que ça dépend des familles, ça dépend des relations, ça dépend des problématiques aussi, puis ça dépend du niveau de fatigue de chacun. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, la clé des clashs qu'il peut y avoir ou des mésententes qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants est la conséquence justement de cette communication qui est faite dans l'opposition. Non pas dans la non-violence, parce que quand je dis à mon fils, écoute, là, je vais m'énerver, j'en peux plus, il y a une certaine forme de violence. Et il peut l'entendre. Et d'ailleurs, c'est là où il se rend compte que, justement, là, oula, papa, il a besoin de moi. Papa,
il a besoin de moi. Pardon? Enfin, en réalité, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages, mais enfin, dans ma compréhension de la communication non violente, c'est pas le fait de refouler sa colère, etc. C'est plutôt le fait de l'exprimer justement, plutôt que de l'exprimer en la nommant, plutôt que de l'exprimer par un comportement agressif. Donc là, pour moi, en faisant ça, tu fais ce qu'on appelle de façon très réductionniste la communication non violente. Mais en tout cas, je partage tout à fait ce que tu partages
je pense que d'ailleurs,
il y a un double truc qui se joue, c'est que d'une part, en le disant, tu prends de la distance vis-à-vis de tes émotions, donc ça te permet aussi toi-même de désamorcer ce qui est en train de monter. Et puis de l'autre côté, moi, je le vois très bien naturellement, ma fille, elle est empathique. Tu vois, si elle me fait mal, par exemple, par erreur, tout de suite, elle me dit « ça va, papa !» Et puis après, elle me fait plein de bisous. Et donc là, en lui nommant et en lui expliquant ce que tu ressens, bah, tu l'engages dans le fait, effectivement, de trouver la solution et tu le montres bien par les bisous qu'il te fait. Ouais, t'actives le même processus.
Ouais, mais je confirme ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, dans le processus de ce que tu décris, de la communication non violente, il y a effectivement le fait de verbaliser les choses, de les dire, mais il faut avoir un temps où tu redescends, c'est-à-dire que tu redescends pour pouvoir exprimer ce que tu as exprimé, tu vois. Et c'est là où moi je suis pas forcément d'accord, parce qu'on peut pas toujours le faire. C'est-à-dire que il faut pouvoir exprimer les choses quand on est tout à fait en haut, et ça n'a pas la même conséquence et la même valeur si la personne en face de toi arrive à te faire redescendre de tout en haut que si elle arrive à te faire redescendre alors que tu es déjà en train de descendre. C'est-à-dire que moi, dans le lien là que j'ai créé, il y a une espèce de continuité qui fait qu'en fait on fait un échange où ben en fait quand je suis au plus haut, ben en fait je me rends compte que j'ai besoin de lui, tu vois. Alors que là, il y a une espèce d'autonomie qui se fait que voilà, pour ne pas le, moi il faut d'abord que je redescende pour pouvoir après verbaliser. Mais il y a encore cette espèce de barrière où on scinde. Où moi je dois faire ce travail-là, et puis après lui, comme ça lui pourra comprendre ce que je veux dire et qu'on pourra travailler dessus. Moi j'essaie d'aller plus loin dans le fait de pouvoir permettre aussi d'être tel que nous sommes, mais pour que les gens en fait aussi puissent apprendre à connaître tel qu'on est et ne pas vouloir se cacher dans une espèce de, même si on exprime ce qu'on ressent, mais ne pas se cacher derrière un masque où on est déjà obligé de redescendre. Parce que cette phase où tu redescends, elle est cruciale. Elle est cruciale. Et tu ne pourras pas toujours le faire tout seul. Tu ne pourras pas toujours le faire tout seul. Et quand quelqu'un te tend la main pour redescendre quand t'es au plus haut de tes tours, punaise, moi en tout cas, ça me touche, mais au plus profond de moi.
J'imagine.
Mais vraiment, ça me touche au plus profond. C'est-à-dire que, au moment où t'es le plus désespéré, ben, en fait, quelqu'un décide de faire un pas vers toi et de te contenir. Il décide de s'oublier un peu, d'oublier ce qu'il était en train de faire pour t'aider. Eh bien, ça n'a pas la même valeur. Donc, ce que je dis, en fait, ne remet pas du tout en question la qualité et la valeur de la communication non verbale. Attention, hein. C'était pas le propos, hein. Au contraire, c'est pour moi un outil qui est très, très, très efficace, très pertinent. Mais, moi, j'aurais tendance à aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire à aller chercher le lien justement dans les moments où c'est le plus inconfortable. Et là, on est vraiment dans l'hormèse. Mais c'est moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, aller chercher le lien là où on est très inconfortable, là où on se dit que mais non, si je vais là, on ne m'aimera plus ou on ne va plus m'accepter ou on va me rejeter. Mais en fait, et c'est là où on va être le plus surpris. Et les personnes avec qui on est le plus surpris systématiquement, ce sont les enfants. Voilà.
Qui d'ailleurs, eux, font ça constamment, à exprimer leurs émotions telles qu'elles arrivent, sans essayer de les réprimer ou de les contrôler.
Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment nos meilleurs maîtres.
Je vais juste revenir sur l'interaction dynamique avec les autres pour partager un petit hack, comme je les appelle. Déjà, je mets un petit élément d'introduction qui est que parfois, tu as des gens résignés qui disent « À quoi bon faire des efforts, etc. De toute façon, à mon échelle, je ne peux rien. » Et moi, je réponds souvent qu'on a tous la responsabilité d'influencer positivement notre propre microcosme. Et c'est un peu ce que tu dis, tu vois. En fait, on est toujours en interaction dynamique avec les autres et on a tous, et ça importe et ça inclut une grande responsabilité.
Exactement.
Et cette responsabilité, tu peux la ressentir parfois, justement, lors de mon expérience ayahuasca. Tu peux la comprendre par l'écoute de podcasts ou d'une conférence. Mais c'est peut-être difficile parfois de l'engrammer dans sa vie quotidienne, d'y penser tous les jours, etc. Et donc moi, ce que j'ai fait après cette retraite, justement, en ayant reconnecté avec ce qu'était, je pense que j'ai découvert à cette occasion ce qu'était vraiment l'amour. Et je me suis aperçu que j'avais envie d'aimer les autres, etc. Mais j'aimais pas de façon totalement libre et entière et totale. Et pour m'en souvenir, je me suis acheté un bracelet là qui est toujours à mon poignet. Et voilà. Et donc c'est simplement un petit outil qui me permet de me rappeler quotidiennement de ce que c'est, un ancrage en fait, de ce que j'ai vécu et de la façon dont j'ai envie d'aimer les autres. Et depuis, il s'est doublé de plusieurs autres petits attributs. Le premier, c'est NoCPR. Ça vient de Guillaume Mathias de BMO. C'est je ne me plains pas, je ne critique pas et je ne râle pas. Et à chaque fois que je fais l'une de ces trois choses, donc que je suis pas capable d'inhiber des comportements que j'ai pas envie de voir chez moi, je dois le changer de poignet. Donc ça, c'est la deuxième utilité que je lui ai ajoutée. Et la troisième, c'est le petit traité des grandes vertus. Je sais pas, d'André Comte, je sais pas si tu l'as lu. Et en lisant ces vertus, j'ai eu envie d'être un homme vertueux. Mais être un homme vertueux, c'est pas quelque chose de foncièrement naturel. C'est un choix. C'est un choix conscient et constant que tu dois faire pour l'être malgré et contre tes envies parfois naturelles et égoïstes de suivre ton propre intérêt. J'ai appris cet exemple et je le trouve intéressant. Ma fille justement de 2 ans et demi, nos enfants sont nos meilleurs professeurs. Quand elle voit un papier par terre ou un bouchon, un emballage, elle le ramasse pour aller le jeter à la poubelle. Alors que je lui ai jamais appris à le faire. Simplement parce que pour elle, c'est une rupture de cohérence et elle dit c'est sale et elle a pas envie de voir son environnement sale. Et moi, qu'est-ce que je fais quand je vois un papier par terre? Ben, je me dis, ah, c'est sale, mais j'ai pas envie de me salir les mains, puis j'ai pas envie d'aller jusqu'à la poubelle, donc je le laisse par terre en me disant que quelqu'un d'autre peut-être le nettoiera et puis que sinon, avec le vent, il prendra. Et quelque part, tu vois, d'un point de vue théorique, je sais foncièrement ce que je devrais faire ou ce que j'aurais envie de faire, c'est de le ramasser, de le mettre à la poubelle. Mais pour autant, ma nature humaine me pousse à l'éviter. Et ben, ce bracelet me permet d'y penser. C'est-à-dire que quand j'ai cette petite voix qui me dit tu devrais le ramasser mais que je ramasse pas, et ben, le fait de voir mon bracelet, je fais ah ok, j'ai décidé, j'ai choisi d'être un homme vertueux. Et donc, je décide d'écouter cette voix qui me dit ce que je devrais faire. Donc, je le fais, je le mets à la poubelle et après, j'ai même une gratification parce que du coup, je suis content et fier d'avoir suivi mes valeurs et de l'avoir fait, tu vois. Donc j'ai même quelque part une récompense. Et donc petit à petit, d'ailleurs, t'engrammes des petites récompenses face à ces actes de générosité, de bienveillance. Là, j'ai pris un exemple simple, mais tu peux l'exprimer de plein de façons différentes dans ton interaction avec les autres ou avec ton environnement quotidiennement. Et en fait, tu trouves beaucoup de bonheur. Et donc plus tu avances, en fait, c'est comme un muscle, comme un entraînement musculaire. Plus tu muscles ces vertus, plus elles deviennent naturelles pour toi et faciles à suivre.
Eh oui, bien sûr.
J'aimerais qu'on évoque cette idée d'hyper spécialisation. On l'a un petit peu, on l'a déjà un petit peu introduit, mais on est vraiment dans une société qui pousse à s'hyper spécialiser. D'ailleurs, on dit la curiosité est un vilain défaut. Je pense que c'est la pire chose que j'ai pu entendre dans ma vie, moi qui suis extrêmement curieux. Il faut être focus, il faut avoir une seule voie, faire une seule chose. Et d'ailleurs, le fait de comprendre et de m'intéresser au concept des intelligences multiples. Donc, les intelligences multiples, c'est simplement de dire qu'il y a plusieurs types d'intelligences. T'as l'intelligence corporelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, analytique, etc., créative, musicale. Il y en a un tas. Et ben, le fait de comprendre que on a chacun toutes ces intelligences qui sont plus ou moins développées les unes les autres, comme différents tigres, T'as des petits tigres et des gros tigres. Et ben les gros tigres ont besoin de manger des gros steaks et puis les petits tigres des petits steaks. Mmh. Et ben et, mais qu'elles ont toutes besoin d'être nourries. Pour moi, ça a été une grande libération parce que je pense que j'ai souvent essayé de lutter contre ma nature, ma curiosité, ma propension naturelle à explorer pour me conformer à ce que me dictait l'image de l'entrepreneur qui réussit ou la société ou ceci, etc. Et le fait de m'être libéré de ça et d'accepter ma personnalité m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans mon quotidien parce que je suis capable d'aller nourrir correctement ces différentes intelligences. Et dans ton domaine d'expertise, j'ai le sentiment que la physiologie, la biologie, on l'a déjà vu, était assez systémique. D'ailleurs, même dans les hôpitaux, tu vois, chaque maladie est bien segmentée dans son service. Tu vois, t'as pas un service de gériatrie ou de vieillissement qui, entre guillemets, met en corrélation plein de maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le diabète, qui sont peut-être plus liées au fait qu'on vieillit que à leur côté réductionniste et cloisonné, quoi. Bref, je digresse. Mais je reviens donc à mon sujet principal. Comment est-ce que tu vois cette hyperspécialisation dans le domaine de la physique quantique et dans la biologie? Et comment est-ce que toi, tu arrives à faire des ponts entre ces différentes disciplines? Qu'est-ce que les révolutions dont tu as parlé un peu plus tôt t'ont permis de comprendre sur la science du vivant qui était ton domaine d'expertise initial? Et pourquoi est-ce que ça t'enchante autant?
Alors, déjà, ce dont tu parles là, c'est quelque chose de très important. C'est que il faut bien comprendre que le système social dans lequel nous vivons n'est pas un système naturel. C'est-à-dire que la façon dont nous sommes guidés à fonctionner, c'est-à-dire au travers de ce que nous impose l'école, les universités, et le travail, ce n'est pas un modèle naturel. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes poussés à travailler des choses de façon très spécifique, c'est-à-dire à se spécialiser, c'est uniquement pour répondre à deux choses. La première, c'est la contrainte, je dirais, purement capitaliste, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'humain comme un objet de productivité pour pouvoir justement générer un certain niveau de production et de gagner de l'argent. Donc, effectivement, pour pouvoir produire quelque chose de particulier, il faut qu'on se forme à quelque chose de particulier. Et donc, après, on reste chacun dans notre coin. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est vraiment un choix de société. La deuxième chose, et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi dans l'histoire des sciences, c'est que, justement, comme cette histoire qui a commencé avec Descartes, donc 16e siècle, l'idée, en fait, de créer un réductionnisme en fait chez le vivant, ça nous a donné l'illusion de pouvoir appréhender la complexité, mais surtout de la contrôler. C'est-à-dire que ça nous a donné l'illusion du contrôle. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on étudie toutes les différentes parties du corps séparées, mais en fait, on va pouvoir les comprendre parce que finalement le corps c'est que des petites pièces qu'on rajoute, d'accord ? Et donc on va pouvoir maîtriser. Donc si, par exemple, moi, je me spécialise dans le foie, je vais être spécialiste du foie et je vais pouvoir, si je n'étudie que le foie, je vais être celui qui, objectivement, comprend le mieux le foie. Et là, on comprend bien que non, ça marche pas comme ça, en fait. Mais c'est ce qu'on a cru longtemps. C'est ce qu'on a cru longtemps. Et on a cru qu'il suffisait de se focaliser sur quelque chose pour être celui qui en avait l'expertise la plus objective. Et finalement, ça s'est déroulé pendant des décennies. Et puis en fait, plus on a commencé à étudier les choses de façon systémique, plus on s'est rendu compte que cette façon de faire était complètement erronée. Et donc que, par exemple, chaque organe n'avait aucun sens, absolument aucun sens, sans la considérer dans ses interactions avec les autres structures. D'accord ? Et on s'est rendu compte, bien évidemment, que le corps n'est pas l'addition de ces différentes parties. Il y a énormément de propriétés émergentes dans le vivant, ce qui fait qu'il est impossible d'appréhender sa complexité par réductionnisme. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on est dans une espèce de voie sans issue où il y a encore des secteurs qui travaillent de cette façon-là, des universités, des métiers, mais qui sont dans Mais oui,
l'alimentation, par exemple, regarde les oméga 3, par exemple,
oui,
dont les bienfaits ont été prouvés à maintes reprises. Et puis donc, on propose des compléments sous forme de gélules d'oméga 3, et en fait, on s'aperçoit que ils n'ont pas du tout les mêmes bénéfices, et d'ailleurs parfois même des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires que les oméga 3 qui sont contenus dans le poisson.
Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, encore une fois, le fait de réétudier ça, donc ce qu'on fera, tu vois, au sein de l'académie, permettra justement dans une deuxième partie pratique de la formation, justement, de re-questionner tout ça. Après tout ce qu'on aura étudié, quel est le sens que vous donnez, justement, à toutes les techniques que nous avons mis en place, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit les méthodes qui ont pullulé depuis les années 80, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on les comprend? Et là, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, parce que tu te doutes bien que à partir du moment où on comprend le niveau de complexité dans les régulations, qu'on ne peut plus du coup segmenter. Et effectivement, toute cette industrie, notamment des compléments alimentaires, elle est issue de ça. Elle est issue de ça, c'est-à-dire qu'elle part d'un postulat qui est juste, sauf qu'ils ont oublié que dans le corps, dans l'organisme, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme dans la théorie. Donc là, il y a un fossé qui est énorme et que moi, j'ai eu la chance, en fait, de constater très tôt pendant mes études, et pour lequel, du coup, j'ai décidé d'avoir une approche toujours, toujours systémique, c'est-à-dire d'étudier toujours les différentes branches. Et mon objectif, c'était pas d'être spécialisé dans une ou dans l'autre branche, c'était d'en apprendre le plus possible de chaque branche, mais mon travail principal, c'était de faire le lien entre les différentes branches. C'est-à-dire, une fois que j'avais compris ce qu'il y avait à comprendre, d'essayer de voir qu'est-ce qui les relie. Où est-ce qu'on a créé de la séparation pour faciliter notre travail ou notre capacité à le comprendre parce qu'on considérait que c'était trop complexe, mais qui n'a pas de réalité objective. Et donc, moi, j'essaie de reconstruire un puzzle, en fait, qui a été détruit, mais qui n'a vraiment aucun sens quand les pièces sont complètement éparses. Alors, on peut les trouver jolies, mais on est dans l'incapacité de mesurer à quoi elles correspondent quand il est dans le tableau général. D'accord? Et aujourd'hui, que ce soit les oméga 3 ou autres, après les avoir ingérés de façon artificielle, on aurait une image qui est complètement fausse de ce que apportent les oméga 3 réellement dans l'organisme. Tu vois? Alors que, en ayant étudié leurs propriétés en amont, on s'est dit, tiens, si ça fonctionne comme ça, il suffit de les prendre de façon, par des pilules ou quoi, ça fera le même effet. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, là, l'interdisciplinarité, si tu veux, reprend ses droits. Elle reprend ses droits. Parce que le monde est complexe, pas compliqué. C'est nous qui l'avons rendu compliqué, justement, parce que nous avons créé des modèles qui sont faux. Parce qu'on a voulu, en manquant probablement d'humilité, on a voulu maîtriser, on a voulu contrôler les choses. Et donc, on s'est dit, vu que c'est trop complexe, si on veut pouvoir contrôler cette complexité, il faut qu'on la simplifie. Oui, sauf que quand on la simplifie, en fait, on la rend simpliste. Et donc, elle devient fausse. Donc, ça nous donne un petit aperçu, mais absolument rien à voir avec la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a autant de décalage entre la théorie, qu'on peut retrouver dans les labos et tout ça, et la pratique. Et d'ailleurs, on le voit dans le domaine de la santé, on tourne en rond. On tourne complètement en rond. C'est à qui va trouver la nouvelle méthode, à qui va trouver la nouvelle formule, la nouvelle mode, le nouveau produit miracle. Mais parce qu'on tourne en rond, en fait, parce qu'on reproduit les mêmes problèmes en essayant de trouver de nouvelles solutions. Donc on tourne en rond.
Et du coup, pour en revenir au lien entre la physique quantique et puis la biologie et le vivant, si par exemple je prends l'intrication quantique, on parlait tout à l'heure de la notion d'infini et de la difficulté pour un cerveau humain à la conceptualiser. Je pense que la physique quantique souffre des mêmes problèmes, c'est-à-dire que ça paraît tellement défier les lois de la physique, c'est-à-dire ce qui est observable et ce qu'on considère comme être le réel, que on a du mal à l'appréhender. Donc l'intrication quantique qui dit que deux particules qui sont potentiellement éloignées de millions de kilomètres peuvent être intriquées et donc lorsque l'une est percutée, l'autre subira les mêmes impacts. Ça semble complètement fou et défier ce qu'on croit possible. Donc on a l'impression d'être projeté dans un Marvel. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que on était doté de super pouvoirs. Simplement, on n'en avait pas forcément conscience. Comment est-ce que tu arrives à faire des liens entre une science qui est quand même beaucoup plus tangible, qui est la science du vivant, avec des concepts liés à la physique quantique?
Mais si j'en reviens à ce que je disais encore tout à l'heure, c'est que on voit le monde non pas comme il est, mais comme on le pense. Et on pense que ce que l'on voit est la réalité ultime. Et donc, quand on nous dit, par exemple, que justement le phénomène d'intrication existe, je dis mais c'est impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que l'on croit que ce que l'on pense est la réalité. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est ça, en fait. Il faut bien comprendre que l'idée que l'on se fait du monde est la conséquence d'un raisonnement. On n'a pas d'objectivité absolue par rapport à ce qu'est vraiment le réel. Et donc, on a la possibilité que de lever le voile, comme dirait Bernard d'Espagna. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Plus on progresse dans le savoir et dans la connaissance, plus on lève le voile. Mais on n'a jamais, mais par contre, nous, on se comporte systématiquement comme si on était arrivé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, sans même être capable de mesurer les implications de ce qu'on a compris, mais en fait, on se dit, ah ben, la réalité, c'est ça. Alors que ce que l'on devrait dire, c'est que ce que nous avons compris à ce jour a telle implication. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que dans la deuxième possibilité là, tu laisses la porte ouverte justement pour encore remettre en question ce que tu as compris. Alors que dans la première, tu te dis mais non, t'es arrivé, ça c'est la réalité. Et tout ce que tu vas entendre ou qui va venir vers toi, qui va confronter un petit peu ce que t'as compris, qui te dit mais en fait non, c'est peut-être pas ça, mais en fait tu vas résister à ça. Tu vas avoir une résistance. Tu te dis, mais non, mais c'est pas possible en fait. Parce que j'ai appris à l'école ou j'ai appris là que le monde était comme ça. Et donc tu résistes. Et donc tu dis, soit c'est pas vrai, soit c'est impossible. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Albert Einstein par rapport à l'intrication. Il était tellement persuadé que le monde devait être tel qu'il le pensait, qu'il ne pouvait pas accepter que ce principe d'intrication soit une réalité ultime.
Ouais, c'est aussi assez propre à la démarche scientifique. Ça me fait penser aussi aux travaux de David Sinclair, qui a décidé de changer le paradigme de vision du vieillissement. On pense toujours d'ailleurs que le vieillissement est quelque chose d'intrinsèquement lié à la condition humaine ou animale, cellulaire. Et lui, il a décidé de la voir comme une maladie. Je dis pas qu'il a raison ou tort, mais cette simple changement de données de l'équation initiale lui a permis de dérouler tout un champ de pensée, de recherche et d'exploration totalement nouveau.
Mais c'est ça. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est-à-dire que même si, et peu importe qu'il ait raison ou qu'il ait tort, l'idée, c'est que ça va générer un cheminement qui est différent du paradigme dans lequel on était. Et c'est ça qui est intéressant. Et les gens qui vont dire dès le départ non mais ça c'est complètement faux ou c'est pas, mais c'est pas là que ça se joue en fait. Le but c'est pas d'avoir raison. Le but c'est d'arriver à ouvrir des portes qui permettent de cheminer de plus en plus proche en fait d'une certaine conceptualisation d'une réalité objective. Voilà, donc c'est.
Et justement, pour accompagner cette conceptualisation, excuse-moi de vouloir m'ancrer un peu plus dans la matière, mais est-ce que tu aurais un exemple qui t'a marqué de façon dont la physique quantique peut modifier ta vision de l'homme ou du bien-être, un exemple concret, tu vois, de l'implication que ça peut avoir dans nos vies. Parce que j'en reviens à ce que je disais plus tôt, mais le problème avec tout ça, c'est que c'est des concepts qui sont fous et en plus qui sont très théoriques. On a du mal à en voir l'implication concrète pour nous en tant qu'hommes dans notre réalité.
Mais si tu veux, par rapport à la physique quantique, alors pour ce qui est de la matière, alors je vais finir d'abord avec la physique quantique, mais la physique quantique, elle permet, si tu veux, alors peut-être pas forcément à notre échelle de compréhension pour tout le monde, mais elle a permis quand même de faire des avancées énormes dans les domaines de la biologie et de la microbiologie. C'est-à-dire qu'il y a des éléments comme par exemple les liaisons chimiques, tu vois, c'était des choses qui étaient totalement incompréhensibles avant la physique quantique. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas comment est-ce que effectivement il pouvait y avoir ces liaisons et comment il pouvait y avoir une forme de stabilité au niveau des liaisons chimiques. C'était un mystère. Donc il y avait un vrai mystère de la vie. Et en fait, la physique quantique, avec ses propriétés, donne une explication extrêmement satisfaisante sur la liaison chimique. Et quand on sait que justement, c'est sur cette liaison chimique que se constituent après tous les mécanismes de la biologie, bon ben, on a quand même, on comprend que la physique quantique va à une certaine échelle être à la base de tout ce qui va se construire par la suite. Donc effectivement, la liaison chimique, les gens entendent, mais même s'ils mesurent pas les implications de ce que ça, c'est quand même quelque chose, je dirais, de conséquent. C'est-à-dire que les par la suite, la recherche n'a pas du tout été orientée dans la même direction. Donc ça c'est un élément. Par contre, si tu veux quelque chose de frappant au niveau de la matière, on peut par exemple parler de la relativité. La relativité, elle a révélé des implications qu'aucune personne, aucun philosophe n'avait imaginé. C'est-à-dire que la physique produit des résultats que aucune autre méthode ne peut obtenir. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle nous dit quelque chose du réel. Elle ne dit pas que c'est vrai. Elle nous dit quelque chose du réel que même notre pensée, si tu veux, juste par la logique ou par la méditation ou par ce que tu veux, ben en fait, est incapable de produire. Donc c'est un chemin qu'emprunte en fait la physique au travers des mathématiques qui semble lui être complètement propre et individuel. Tu vois ? Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, tu vois, quand on prend par exemple l'équation, tu vois, E égale MC carré, d'accord ? Donc qui est l'une des équations les plus connues. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit en partie, cette équation ? Cette équation, elle nous dit que la propriété d'une particule, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, sa vitesse, d'accord ? Peut se transformer en un objet. Donc c'est comme si je te disais, que la vitesse de la balle que frappe Federer, la vitesse, hein, donc on va dire 150 km/h, la valeur 150 km/h, pas la balle, hein, la valeur 150 km/h, se transforme en raquette, en objet raquette. Tu vois ? Donc là, on est dans la même situation que l'infini, c'est-à-dire que le cerveau, il bug, il comprend pas, mais c'est comment de l'un à l'autre. Donc effectivement, je te rejoins dans le fait que pour les gens qui ne s'y intéressent pas forcément, c'est difficile de l'appréhender. Par contre, la réalité de cela, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil d'accès à des propriétés du réel qui sont, mais totalement folles et inédites. D'ailleurs, c'est l'intrication, elle est issue aussi de là. Elle est issue du monde physique. C'est-à-dire que ce n'est pas, même si certaines traditions ancestrales avaient expliqué déjà la notion d'holisme, de systémie et tout ça, là, si tu veux, on a quand même un outil technique, technologique qui nous permet de le démontrer. Enfin, pour moi, je trouve ça complètement fou, en fait.
Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais en fait, en réalité, ça crée un petit peu, comme tu l'as dit très bien, des ruptures de cohérence dans le cerveau qui éveillent l'esprit critique. Et cet esprit critique, ben, il calcule un petit peu l'énergie nécessaire pour intégrer ces nouvelles connaissances. Et si c'est trop éloigné de notre monde de croyances, eh ben, il va décider plutôt de les éloigner. C'est ce que Nicolas Aignon appelle l'aquarium. On vit chacun notre petit aquarium de pensée. Puis parfois, t'entends quelqu'un qui vient toquer à la vitre de ton aquarium. T'as deux options à ce moment-là. Soit tu te dis, tiens, si j'allais faire un tour dans son aquarium, ou alors tu te dis, non, je garde les portes fermées et puis je reste bien dans mon aquarium de pensée. Et après, tu vois, même sans être capable de le comprendre, de l'appréhender ou de l'imaginer, Ouais. Je pense qu'en tout cas, ça peut nous amener à une conclusion qui est que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imagine. On vit vraiment dans une ère scientifique où on a essayé de donner une explication à tout, à la physique, à la biologie, enfin à tout, aux mathématiques. Enfin voilà, on est vraiment dans une ère très 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 cartésienne. Et donc cette volonté de tout expliquer nous a donné l'illusion d'avoir la maîtrise de notre environnement, de notre monde, alors qu'en réalité, on a peut-être compris 1% de la réalité du monde.
Oui, oui, absolument. Mais il faut faire attention aussi au parce que on a tendance à dire effectivement qu'on a essayé de tout expliquer et que tout est scientifique, mais pas tant que ça en fait. Hein. C'est juste que la science a été mise beaucoup en avant par rapport à d'autres méthodes. Pour diverses raisons, mais on n'a pas essayé de tout expliquer parce que justement, paradoxalement, c'est au travers de la science qu'on a réussi à démontrer qu'on ne pouvait pas tout expliquer.
Oui.
Eh ben oui. Et oui, donc ça aussi, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et ça, on y passera aussi beaucoup de temps justement au sein de l'académie, parce que notamment avec toute l'histoire du théorème d'incomplétude de Kurt Gödel au sein des mathématiques, a donné une assise très 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 importante sur la notion de logique, sur la façon dont on apprend les choses et la façon dont on peut prouver et démontrer des choses. Et quel est le rapport entre ce qui est démontrable, ce qui est vrai et ce qui est juste? D'accord, qui sont des concepts qui peuvent être différents. Mais pour comprendre, pour appréhender cette complexité, il faut poser les choses. Il faut y aller de façon méthodologique. Chose qui n'est pas encore faite.
Et justement, à la base de ce projet d'académie, il y a trois mots, oui. Homéostasie, hormèse et homéorésie. J'imagine que, et d'ailleurs tu nous expliqueras un petit peu en fin de podcast comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'académie, quel est le programme, etc. Mais j'imagine que tu peux pas là en 10 minutes m'expliquer ce que sont ces trois mots, mais peut-être que tu peux donner une image ou une bribe de définition qui permettrait à nos auditeurs de se représenter ta vision de ces trois termes.
Oui, alors justement le speech, si tu veux, dans le cadre de la présentation de l'académie, est fondé justement sur ça. Il est fondé sur le fait que dans le vivant est basé sur des concepts de base. Et ces concepts de base, que sont l'hormèse et l'homéostasie, sont des concepts qui sont extrêmement mal compris. Extrêmement mal compris. Et ça, c'est très problématique parce que on a le sentiment de comprendre, notamment pour l'homéostasie, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent et qui est à la mode depuis une vingtaine d'années. Et comme c'est un terme qu'on utilise souvent, on a l'impression, comme ça nous est familier, on a l'impression qu'on le comprend, c'est-à-dire qu'on connaît vraiment ce mot, alors que pas du tout. Et ça, c'est vraiment un problème parce que si on fonde tout notre raisonnement sur des concepts qui sont flous, on va tout droit vers des interprétations. C'est-à-dire qu'on va parler, c'est-à-dire que toi et moi, par exemple, si on veut discuter de quelque chose qui s'appuie justement sur ces mécanismes-là, eh bien en fait, on va pas se comprendre. Et parce que on parle pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'attribue pas les mêmes propriétés à l'homéostasie, et donc on va pas se le représenter pareil. Et donc dans ton raisonnement, tu ne vas pas utiliser l'homéostasie de la même façon que moi. Et donc à certains moments, on va probablement dire la même chose. Mais on va avoir l'impression de pas être d'accord. Parce qu'on le dit pas pareil. Tu vois? Et ces termes-là souffrent d'énormément d'ambiguïté, alors que ce sont des concepts fondateurs. L'homéostasie, c'est un concept qui est issu de la conséquence de la description pour la première fois par Claude Bernard de ce qu'on appelle le milieu intérieur. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Il a compris qu'effectivement on pouvait distinguer le milieu intérieur et le milieu extérieur parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des échanges. D'accord ? Voilà. Et donc il y a eu ce milieu intérieur, et donc par la suite, quelques années plus tard, un physiologiste, donc Cannon, qui lui a parlé pour la première fois du terme homéostasie. Mais aujourd'hui, quand on parle, si tu veux, d'homéostasie, les gens, si tu leur demandes c'est quoi l'homéostasie pour toi, Le premier terme qui va leur venir à la bouche, très probablement, c'est la notion d'équilibre. Parce que justement, l'homéostasie à cette époque-là faisait référence au fait que ce milieu intérieur et ce milieu extérieur cherchaient à trouver, à rester, si tu veux, dans un niveau d'équilibre. Et que c'était cet équilibre, justement, qui permettait d'avoir un organisme qui est stable. D'accord ? Sauf que le mécanisme d'équilibre, justement, c'est, il y a, l'équilibre, c'est tout un mécanisme. D'accord ? Et donc, pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'est l'équilibre. Et cette vision de l'équilibre, depuis, donc, là, on parle du 19e siècle, hein, c'est 1865, hein, Claude Bernard. Donc, depuis 1865, la notion des mécanismes qui sous-tendent l'homéostasie, elles ont évolué. Parce qu'il y a eu toutes les révolutions scientifiques dont on a parlé, par exemple, pour le cœur, mais il y a eu aussi tout ce qui est sur le biote intestinal, il y a eu tout le phénomène aussi lié par rapport à l'épigénétique, etc., etc. Mais toutes ces révolutions-là n'ont aucunement impacté notre façon de penser et de dire l'équilibre qui sous-tend la définition de l'homéostasie. D'accord ? Sauf que quand on fait l'effort, justement, de les étudier, on se rend compte que la façon qu'on avait de penser l'équilibre est totalement erronée. C'est-à-dire que la façon qu'on avait de penser l'équilibre, c'est totalement l'inverse, c'est même pas différent, c'est l'inverse de ce que l'on comprend aujourd'hui de l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'équilibre relatif, déjà, et on parle d'instabilité. D'accord ? Parce que justement, la notion d'équilibre dans le vivant, ça renvoie à la mort. Il y a un équilibre, une stabilité, que quand, en fait, ben, l'électrocardiogramme, si tu veux, il est plat. Donc, on est à l'opposé, finalement, du vivant. D'accord ? Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'arriver, au travers de toutes les révolutions scientifiques qui ont eu un impact majeur dans notre façon de dire et de penser les notions en rapport avec l'équilibre, de redéfinir par la suite le concept même d'homéostasie. Et là, on va pouvoir appréhender un concept fondamental, mais de façon totalement moderne, mais surtout originale. Et cette originalité, elle va permettre à une nouvelle propriété d'émerger. Et cette nouvelle propriété, ça va être la possibilité d'appréhender le concept d'hormèse. Parce que l'hormèse, historiquement, c'est la conséquence de l'homéostasie. Mmh. D'accord ? Parce que l'homéostasie, en fait, c'est une notion de régulation. Et l'hormèse, c'est le renforcement. Mais il n'existe pas de renforcement s'il n'y a pas de régulation. Mmh. Tu comprends ? Et donc, cette notion même d'hormèse, qui va être du coup traitée de la même façon que l'homéostasie, elle ne peut pas être appréhendée aujourd'hui si ce travail n'est pas fait sur l'homéostasie. Et on aura le même processus par rapport à l'homéorésie, qui est un concept qui est encore plus flou pour les gens, justement parce qu'on accumule, si tu veux, les incompréhensions. Donc il faut tout recadrer, reconstruire, les exprimer de façon moderne par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, pour que nous ayons un vocabulaire, si tu veux, qui soit plus juste. Simplement ça. Pour que l'on sache de quoi on parle en 2023.
C'est vachement intéressant ce que tu partages. Et en fait, si on extrapole un petit peu à la vision qu'on a du monde ou de notre vie, c'est parce qu'on cherche, et probablement que ça vient de la volonté de notre cerveau à faire des prédictions les plus sûres possibles, on cherche la linéarité, on cherche des lignes droites. Là où il n'y en a pas, en réalité, tout est mouvement. Et donc, même vis-à-vis du bonheur, par exemple, on cherche le bonheur absolu, etc., alors que la vie est faite de haut et de bas. Tout est une sinuosidale, tout est mouvement, en réalité. Et donc, c'est un petit peu ce que tu partages. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit avec l'électrocardiogramme qui est linéaire, et ben c'est la mort. Tu peux voir de la même façon vis-à-vis de nos états intérieurs de frustration. Parce que, tu sais, parfois, on a l'impression d'entendre que l'idéal pour être heureux, etc., c'est de plus avoir de frustration, d'être parfaitement heureux, etc. Mais cet état d'harmonie, de plénitude parfaite, c'est un état inerte. Parce que qu'est-ce qui nous met en mouvement? C'est justement la frustration. C'est notre envie d'obtenir autre chose ou d'éviter une situation aversive, etc. Mais donc, c'est bien l'adversité, c'est bien le chaos, c'est bien tous ces éléments-là qui nous mettent en mouvement et qui nous font explorer le monde et avancer dans notre vie.
Voilà. Et l'un des gros blocs, justement, de cette formation, dans le cadre du premier module, donc, qui sera l'homéostasie, ça sera justement la théorie du chaos. Parce que la théorie du chaos, mais vraiment, du coup, vraiment décortiquée, comprise, et avec, en mesurant vraiment les implications, nous donne tous les outils pour comprendre pourquoi il faut sortir de cette linéarité. Pourquoi est-ce que cette linéarité n'a absolument rien à voir avec le vivant? D'accord? Mais du coup, ça va donner aux gens des outils, des arguments qui leur permettent de penser et de dire les choses différemment. Et non pas juste de se dire, oui, c'est comme ça parce que, non, non. On a des éléments. En 2023, nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir argumenter et aller dans ce sens-là. Tu vois? Alors que, il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent de ça comme d'une découverte. Tu vois? Alors que c'est des choses qui sont déjà là. Mais elles ne demandent qu'à être assimilées. Et que les gens se les approprient individuellement. Mais la notion de chaos, c'est une notion qui est vraiment fondamentale. Et quand on va être amené justement à étudier la théorie du chaos et à voir toutes les implications que ça a au niveau physiologique, parce qu'on verra du coup comment est-ce que toutes les régulations qui passent au travers de l'homéostasie, tu vois, que ce soit la régulation du cortisol, de la glycémie, enfin tous ces éléments-là, vus au travers des implications de la théorie du chaos, mais ça n'a plus rien à voir. Et les conséquences de ça, mais elles sont énormes. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions, mais du coup, les bilans que l'on fait, par exemple au niveau sanguin, quelle est leur véritable valeur quand on sait ça? Tu vois? Ça va ouvrir des portes, mais vraiment, de partout, qui vont nous permettre de beaucoup mieux appréhender, en tout cas de façon beaucoup plus sereine, notre façon de penser la santé.
Ouais, c'est fondamental. Et d'ailleurs, cette notion de chaos est extrêmement connotée négativement dans notre société. Et moi, tu vois, je suis en pleine traversée là du chaos parce que je suis en transition à plein de niveaux professionnels, etc. Justement, on parlait du fait de s'aligner. Ben, Limitless Project a mis en mouvement des tas de choses chez moi qui m'a poussé à transformer beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, je traverse cette notion de chaos, mais j'en ai pas du tout une image négative. Pour moi, le chaos est une étape transitoire nécessaire à la transformation de la matière. Et d'ailleurs, il y a une belle métaphore qui est, tu vois, ces plaques vibrantes où tu mets du sable dessus, ouais. Et ben, qui dessine des formes. Et donc, ça dessine des formes, mais d'une forme à l'autre, en réalité, ça passe toujours par un état de chaos. Parce que forcément, si les particules de sable doivent se réorganiser pour faire une nouvelle forme, bah, elles doivent d'abord se désorganiser avant de pouvoir se réorganiser, tu vois. Et donc, c'est inhérent à la physique même, tu vois. Là, c'est sur quelque chose d'inorganique, mais dans la vie, c'est exactement la même chose. Et donc, t'as rapidement évoqué le concept d'homéorésie. T'as dit qu'il était encore plus mal compris, mais sans en donner un prémisse de définition. J'imagine bien que tu ne peux pas en faire une description exhaustive, mais peut-être donner quelques éléments qui permettraient juste d'imaginer un petit peu ce que ça peut être.
Alors, si on synthétise de façon, en sachant que voilà, l'idée c'est de se dire que ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la façon dont on arrive à ça. Donc c'est tout le travail qui va être fait après. Donc on a dit effectivement que l'homéostasie, on était dans un concept en fait de régulation, et non pas d'équilibre. On régule, c'est ce qui va permettre dans le corps de réguler. Étape 2, donc ça c'est le module 2, donc qui vient par la suite, c'est l'hormèse. L'hormèse, c'est ce qui va permettre de renforcer, d'accord? Donc c'est ce qui va permettre justement, bon, je donne pas plus de détails par rapport à ce terme-là, parce qu'il faudra le définir, d'accord? Ça va permettre de renforcer. Et lorsqu'on prend ces deux éléments, c'est-à-dire la régulation et le renforcement, les deux sont unis par une notion en fait de flux constant, c'est-à-dire de dynamisme. Et ça renvoie à la discussion qu'on a eue au tout début, c'est-à-dire le lien qui nous unit avec notre environnement. Tu vois, ce lien constant qui nous unit avec notre environnement. Et en fait, l'homéorésie, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, l'homéostasie, c'est ce qui va réguler. L'hormèse, c'est ce qui va nous renforcer. Et l'homéorésie, c'est ce qui va permettre que tout ça se fasse. D'accord? C'est-à-dire, en gros, c'est de mettre un mot et une conception sur le lien, sur ce tissu qui nous relie à tout le reste. Tu vois, quand je t'expliquais, par exemple, que, notamment par rapport à l'approche neuro-cardiaque, tu vois, de toute cette partie du cœur, mais en fait, on se rend compte que nous sommes finalement tous on est tous unis. Il y a une véritable réunion qui se fait. La séparation, elle est finalement que dans notre tête. Mais en fait, c'est comme si cette homéorésie, elle permettait de voir comme le champ magnétique, par exemple, pour le cœur, tu vois, qu'on se représente. Mais là, c'est comme s'il y avait un champ beaucoup plus global qui permettait justement à toutes ces fonctions fondamentales du vivant que sont la régulation et le renforcement d'avoir lieu. Comme si c'était l'espace dans lequel ça avait lieu. Tu vois, c'est comme pour le cinéma, par exemple, mais tu as le film qui est projeté et tu as la salle où tu es assis. Mais en fait, l'homéorésie va être cette salle où tu vas pouvoir communier avec les autres et pour pouvoir voir le film. Donc tu vois, là, c'est encore flou, mais c'est comme la notion de champ qui est apparue justement dans le monde de la physique, c'est un petit peu le même principe.
C'est le liquide interstitiel.
C'est le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel est une forme de champ et c'est une des formes de l'homéorésie.
Comment est-ce que tu vois cette interaction avec l'environnement évoluer avec l'apparition d'intelligence artificielle? J'ai pas spécialement envie de parler du fait de savoir si c'est bien ou mal.
Je pense
que c'est un état de fait, une évolution du monde et que de toute façon, il y a un mouvement qui est en marche et que c'est difficile d'aller contre. Donc la question est un petit peu à non-sens et j'ai pas spécialement envie non plus de rentrer dans les détails de la fainéantise mentale que ça peut induire, dont on a déjà pu voir l'expression par l'arrivée du GPS ou d'autres moyens technologiques modernes, mais plutôt de se projeter dans un monde où on serait plus obligé de travailler, donc un monde potentiellement d'une certaine forme, un monde de divertissement, d'oisiveté, où le sens que l'on donne à notre action, à notre vie, devrait ou devra être redéfini, redessiné. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, le travail, la nécessité de travailler, on a évoqué le fait qu'il y avait un petit peu deux façons de voir le travail. Soit tu le vois comme du kiff parce que tu as l'impression d'être aligné avec tout ce que tu fais, soit tu le vois comme un moyen de maximiser tes ressources et ton statut social. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça répond à une forme de sens dans nos vies. Si demain, cette nécessité n'est plus, qu'advient-il de notre interaction avec notre environnement et notre identité en tant qu'humain?
Mais l'un des dangers, principalement par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que justement, ça va nous retirer l'un des fondements de notre mode de fonctionnement. Parce que sous prétexte d'avoir plus de confort, parce que cette intelligence va faire des tâches plus rapidement que nous, c'est justement ne pas comprendre que la notion de temps n'est pas le problème en fait. Le problème, le vrai problème, c'est le lien. Et quand on change des humains par des robots, ben en fait, vous cassez le lien, vous détruisez le lien. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle commence. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je vois, par exemple, quand je vais faire les courses maintenant, il y a de moins en moins de caisses où il y a des personnes avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger, avec qui je peux même parler de ma vie, où on discute. Et on m'incite même, quand j'y vais, à payer dans les caisses automatiques. Tu vois, et même lorsque je passe dans une caisse où il y a une personne qui a la gentillesse de m'accueillir, je sais pas si tu as remarqué, mais sa caisse, ce n'est plus une caisse normale, c'est une caisse où elle doit rentrer les billets, tu vois, et où elle fait même plus, tu vois. Donc on nous rend complètement dépendants de quelque chose où on va casser en fait le nombre de choses, en fait on va réduire le nombre de choses que nous faisons. Et finalement, notre vie, elle va devenir, elle va se réduire à... Moi, je peux pas prédire hein, ce qui va se passer. Mais en tout cas, si on ne compense pas par une qualité de lien social, cette augmentation de l'intelligence artificielle, moi, je donne pas cher de notre avenir. Hein.
Et ce qui fait peur, c'est que cette révolution de l'intelligence artificielle se fait de façon concomitante avec le développement du métaverse et de la réalité virtuelle. Et
donc,
on pourrait tout à fait imaginer que cette perte de sens et ce besoin de créer du lien se fasse de plus en plus dans des environnements virtuels. Et qui plus est, aujourd'hui, l'une des limites du métaverse, c'est de dire que quand tu t'y connectes, t'as pas assez de gens avec qui interagir, etc., justement, et qui créer du lien. Et donc, une des solutions qui est envisagée par ces créateurs, c'est d'animer des personnages virtuels par l'intelligence artificielle, de telle sorte à ce que tu aies tout un tas de personnages avec lesquels interagir, mais qui sont pas réels.
Mais de toute façon, l'un des objectifs principaux de l'intelligence artificielle, c'est pas de nous rendre la vie plus facile et plus agréable, hein. C'est uniquement de casser du lien, donc casser l'unité principale de notre existence. C'est-à-dire, c'est de nous isoler de plus en plus. C'est-à-dire que plus ça va aller, et plus le lien que l'on va entretenir va être un lien virtuel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas et il ne va plus être humain. Alors que voilà, le seul lien qui existe, il est vraiment dans l'humain. Donc on va nous inciter en fait à changer, à transformer nos pratiques quotidiennes, nos activités quotidiennes que l'on fait avec des vraies personnes dans la vraie vie, et bien dans le virtuel, tout simplement. Donc moi je parlais des caisses de supermarché, mais après ça va être aussi pour prendre des cours. On te conseille aujourd'hui de plus en plus de faire des cours en ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ma formation au sein de l'académie pour la première année, elle est exclusivement en présentiel, parce que j'estime que justement la partie la plus noble en fait de la transmission, elle se fait justement par échange direct, d'humain à humain. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'elle ne se fera que comme ça. Mais par contre, on aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est les formations à distance, c'est le télétravail, c'est d'avoir sa propre salle de sport chez soi, c'est de s'isoler, c'est de d'avoir une vie sociale au travers des Sims. Bon, ça c'est dépassé, je suppose, mais il doit exister quelque chose de plus moderne. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de se passer de plus en plus du lien et de l'échange réel au niveau humain et au niveau vivant. Voilà. Et donc, et de le substituer par quelque chose qui est uniquement, enfin, des machines, quoi. Des machines. Ou alors, même quand on le fait avec des humains, tu vois, nous, par exemple, là, on peut avoir l'impression d'être dans le lien. Mais il y a quand même cette interface. On le fait au travers de l'ordinateur et au travers de l'écran. Ce qui modifie complètement la qualité de notre échange. D'accord? Parce que si j'avais été à côté de toi, justement, de par la présence, notre façon de nous tenir, la façon de se regarder, la façon de se parler, et même, est-ce que ça peut générer ce qu'on disait, tu vois, par rapport au cœur et par rapport au champ magnétique qu'il y a tout autour, eh bien, en fait, ça aurait impacté directement notre façon de penser et notre façon de construire notre raisonnement. Et donc, on n'aurait pas dit les mêmes choses.
Lorsque j'ai démarré Limitless Project, j'avais acheté deux micros et un Zoom H5 justement pour pouvoir faire mes épisodes en présentiel. Et les premiers, je les ai tous faits en présentiel et je voulais qu'ils le soient tous. Bien et sûr. Puis assez rapidement, j'ai abandonné cette idée parce que je me suis quand même aperçu de la complexité logistique de la chose, surtout que pour moi, c'était entre guillemets ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire qu'à côté, je suis entrepreneur, je suis aussi père de famille, j'ai mes passions, etc. Donc c'était très difficile à tenir. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai dans le coin de la tête et si le podcast continue à grossir d'une certaine manière et que je peux me le permettre, j'aimerais bien à l'avenir pouvoir faire effectivement tous les épisodes de façon en présentiel, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur la différence de qualité du lien. Après, pour autant, j'arrive quand même à rentrer un petit peu en état de flow, etc., quand je suis dans ces discussions, même à distance, et je remercie quand même la technologie de me permettre d'avoir ce terreau de réflexion extrêmement riche avec des gens aux quatre coins du monde. Je trouve ça quand même assez fantastique, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu soulignes. Et d'ailleurs, je vais faire un dernier parallèle avec le réductionnisme dont on a parlé tout à l'heure, vis-à-vis des zones bleues, ces zones où on vit, où il y a le plus de centenaires et où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé, etc. Et donc, on a étudié la façon dont ils mangeaient, le fait que notamment, en général, ils mangent 20% de moins que leurs besoins caloriques journaliers, ou qu'ils font des efforts de faible intensité tout au long de la journée, donc pas beaucoup d'efforts intenses, mais ils sont pas sédentaires, donc ils restent pas assis le cul sur une chaise toute la journée, etc. Mais l'un des points fondamentaux et fondateurs de leur mode de vie, c'est pas l'alimentation, c'est pas la façon dont ils bougent, etc. C'est justement cette question de lien social. Bien où le midi, ils prennent une heure et demie à manger parce que c'est un moment de partage, de retrouvailles, où ils sont nombreux, où ils échangent, ils partagent. Et ils flânent en fait beaucoup dans la journée. Et flâner, pas dans le sens de perdre du temps, mais flâner dans le sens où ils ne se mettent pas du stress ou de la pression pour faire le plus de choses dans leur journée, mais plutôt pour traîner avec d'autres gens, des amis, etc., échanger des banalités ou parfois des conversations profondes et partager des moments de vie avec d'autres humains.
Il n'y a pas de banalité, en fait. Il n'y a pas de banalité parce que le contact humain, il n'y a pas plus riche comme source de connaissances. Et donc, quand tu t'assieds à côté de quelqu'un, juste pour regarder les étoiles, il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Tu transfères une quantité d'énergie chez l'autre qui est incalculable. Incalculable. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui nous est indispensable. Donc, si on arrive à se reconnecter à ça, bon, ben, là, ça sera extrêmement salutaire. Ça, c'est évident, parce que du coup, on se satisfera de peu. Il y aura une forme de sobriété dans le matériel. Par contre, si on n'arrive pas, on essaiera toujours de compenser par du matériel. Et c'est là où on rentre justement dans ce fléau de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle nous donne l'illusion de pouvoir gagner du temps et donc de pouvoir engranger plus de matériel en moins de temps. Sauf que c'est une illusion, parce qu'on est toujours dans un état de compensation. Alors que l'idée, c'est pas de compenser, c'est de pouvoir traiter la cause.
Et tu trouves pas ça difficile quand t'es quelqu'un justement de passionné avec énormément de centres d'intérêt, ou en tout cas, oui. Là tu vois toutes les recherches que tu fais sur la physique quantique, sur la biologie, ta volonté de transmission aussi, de création de ton académie, le temps que ça prend de la promouvoir autour de toi. Enfin, tout ça, en fait, quand t'es vraiment quelqu'un de passionné, d'être capable d'accorder suffisamment de temps justement à ces moments de flânerie, à ces moments d'interaction avec l'autre, en dehors de ton cercle familial, je parle.
Bien sûr. Alors moi, oui, non, mais par contre, moi, je suis organisé autour de ça. Tu vois, là, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment le lancement, tu vois, c'est le début. Mais par contre, mon quotidien, il est cohérent, si tu veux, avec tout ce que je te dis. Moi, je suis un libéral, donc je travaille à mon compte. Donc, si tu veux, je n'ai que les horaires que je m'impose.
Et quoi, et tu travailles à mi-temps pour consacrer l'autre mi-temps au monde?
Exactement. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, je ne travaille pas le matin.
Okay.
Je ne travaille pas le matin, je travaille que l'après-midi.
Et le matin, tu fais quoi alors?
Le matin, je fais ma journée. Je m'occupe des enfants, je fais mon sport, je fais mes petites lectures, je me promène. Je fais ma journée, en fait. Je fais ma journée.
Ok, et tu après, fais ta journée. Okay.
Ouais, je fais ma journée. Et ce qui fait qu'une fois que je vais au cabinet, mais en fait, je le fais beaucoup plus sereinement et je suis extrêmement disponible pour mes patients. Et d'ailleurs, c'est quand même la moindre des choses, tu vois. Parce que, justement, avant ça, j'ai fait ma journée. Donc, je suis rempli, en fait.
Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, pendant tout un temps, j'ai fait le sport. Bah, c'était un peu différent. J'ai fait mon sport le matin à 6h pour l'avoir fait avant de démarrer, justement, ma journée de boulot. Et j'aimais beaucoup, beaucoup cette habitude parce que j'avais déjà fait quelque chose de très important pour moi. Et donc, j'arrivais à 9h à mon bureau et en réalité, j'étais déjà satisfait d'avoir fait ça. Quoi.
Exactement.
Même si c'était fait dans un contexte un petit peu plus stressant, un peu moins libéré que le tien, puisque je m'imposais des horaires, il fallait que je me dépêche, etc.
Oui.
Donc,
non.
Voilà, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Et justement, en parlant de ton quotidien, est-ce qu'il y a trois choses que tu fais dans tes journées et qui te permettent, selon toi, d'exprimer pleinement ton potentiel? Trois choses qui sont vraiment importantes auxquelles tu déroges pas ou peu?
Oui, alors c'est souvent tourné autour de mes enfants quand même. Ça tourne autour de mes enfants. J'ai des habitudes, c'est-à-dire la façon de les réveiller, la façon de les préparer et la façon après d'aller les récupérer. Quand je les ramène, quand je vais chercher à l'école, on a un rituel, tu vois, qui est très 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 à nous qui du coup moi me c'est un détail mais qui a tellement d'importance pour nous que je pense qu'au moment où je le vis, toute la terre en profite, tellement je me sens plein de gratitude et heureux à ma place dans ces moments-là.
T'as envie de le décrire ou tu veux le garder pour toi?
Non, je le garde pour moi. Je suis désolé, c'est des petites choses. Je suis assez pudique par rapport à ça.
Non, je comprends.
Ouais, je suis assez pudique, mais voilà. C'est en tout cas ce qui est important, c'est de savoir que c'est quand même tourné autour de ça. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, l'hiver, ce que j'aime, parce qu'à la maison, en fait, on se chauffe uniquement au bois. En fait, j'adore, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi, j'adore me lever avant tout le monde et de préparer le feu. Tu vois, de préparer le feu, sentir ce froid, parce que justement, on chauffe pas, tu vois, sentir ce froid dans la maison et préparer le feu, cette première flamme, et cette flamme qui grandit, et d'aller après chercher, tu vois, d'aller chercher mon fils et de l'entendre dire, de me demander justement, mais est-ce que le feu est allumé? Et là, de lui répondre, oui, le feu est allumé.
Tu crois en l'importance des symboles et des rituels?
Ouais, complètement.
Qu'on perd de plus en plus?
Totalement. 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 C'est tellement important. C'est tellement important.
Mais, ouais, Fano, vas-y.
Non. C'est très, très, très important parce que ça marque des choses très subtiles sur lesquelles on n'a pas vraiment de point d'accès. On peut juste le ressentir, tu vois. C'est vraiment de la connaissance. Donc, dans ces moments-là, on vit quelque chose qui, tu vois, je te donne un détail. La chambre de mon fils est assez proche du poêle. Bon, quand j'allume le poêle et que je rentre après dans sa chambre pour le réveiller doucement, il me demande si le feu est allumé et en même temps il écoute parce qu'il sait qu'il entend le poêle quand il allume. Et là, moi, je regarde ses yeux. Et quand je vois dans ses yeux qu'il a compris que le poêle était allumé, voilà, je peux pas le décrire. Mais ce regard-là, pour moi, il vaut. Et là, j'ai ma journée, elle est faite, si tu veux. Ma journée, elle est faite. Je flotte en fait sur ça après tout le reste de la journée. Ça peut paraître complètement idiot, mais il y a une espèce de fierté, de satisfaction, moi, dans mon être à ce moment-là, de pouvoir lui donner ça, qui me nourrit énormément.
Ouais, voilà. Je comprends. Et puis d'ailleurs, la façon dont tu le partages. Je pense rayonne de cette chaleur à l'image de ce feu qui réchauffe ta pièce. Je vois très bien ce que tu vis le matin parce que ma maman habite dans une longère en Bretagne et pareil, tu vois, ces vieilles maisons et donc elle a des chauffages électriques, mais comme sa maison est très très mal isolée, ça lui coûte beaucoup trop cher de les allumer. Donc en réalité, elle les allume jamais. Et donc le matin, quand tu te lèves le matin, il fait 14-15 degrés, tu vois.
Ouais,
et donc de la même façon, il y a un poêle et donc on allume le feu, etc. Et donc ça réchauffe la maison. Et t'as vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, par biais de contraste, tu découvres vraiment ce que c'est. C'est de la même façon que j'ai appris cet exemple, mais quand tu fais de l'alpinisme ou même de la randonnée et que tu marches toute la journée dans la nature ou dans la montagne et que t'arrives le soir épuisé mais heureux dans le refuge de montagne, eh ben une simple soupe te semble être un repas 3 étoiles. Ouais. Voilà, le feu quand il fait 14 degrés, que tu te lèves, etc., et qu'il fait froid, voilà, t'en savoures toute la beauté, toute la bonté et toute la gratitude que tu peux en avoir. De la même façon que je parlais un petit peu plus tôt du yoga tummo. Dans le yoga tummo, t'as des assises dans le froid dehors et avant le lever du soleil. Et en fait, Patrick Daubar s'arrangeait toujours pour que sur les 5 dernières minutes de l'assise, le soleil se lève et que tu le vois. Et donc, tu passes 55 minutes assis sur la neige par -10 dehors. Et les 5 dernières minutes, les rayons du soleil pointent derrière la montagne et viennent réchauffer les cellules de ta peau. Et là, tu as une gratitude infinie pour le soleil. Et cette gratitude, elle a pas de prix. Et pour autant, on l'oublie au quotidien parce que c'est devenu banal, parce qu'on le voit tous les jours. Il y a ce facteur d'habituation qui fait qu'on n'en aperçoit plus la bonté. Mais pour autant, justement, ce genre d'expérience te permet d'en comprendre toute la magnificence.
Oui, tout à fait. Absolument.
Ça veut dire quoi pour toi, réussir sa vie?
Réussir sa vie? Ouais. Ah, ça veut dire être heureux. Être heureux.
Tout simplement.
Ah oui, c'est vraiment être heureux. C'est vraiment le bonheur. Être capable de se dire qu'on est heureux. C'est vraiment, ouais.
Tu l'es?
Oui, complètement. 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 J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour pouvoir être heureux en ce moment. Je suis entouré je suis très, très bien entouré. Je suis très, 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 très bien entouré. Je suis avec des gens en ce moment qui portent un amour très, très profond, très, très sincère, très humain et qui me donnent, qui donne lieu à des choses incroyables et qui moi me nourrissent au plus haut point, vraiment.
Ouais, c'est vraiment beau de voir ce que peut faire naître le partage sincère et authentique avec d'autres humains lorsqu'ils sont justement alignés encore une fois et qui peuvent vivre ensemble. Moi, c'est un sentiment que j'ai découvert récemment, notamment justement grâce à Limitless, avec certains invités avec qui je suis devenu ami. Et tu vois, ça a vraiment été, on parle de coups de foudre amoureux, mais ça a été des coups de foudre amicaux. Et, et d'une certaine façon, ils ont changé ma vie et ma vision de l'amitié aussi.
Exactement. Mais la vie, c'est ça, en fait. C'est ça, la vie. C'est pas le reste. Pour moi, en tout cas. C'est la vie, elle s'exprime pleinement là. Le reste, c'est du divertissement, en fait.
Et d'ailleurs...
Non, vas-y. Non, et l'idée, pour moi, c'est justement... le chemin, en tout cas, c'est d'essayer d'augmenter la part de cette vie réelle, en fait, donc qui est dans le lien et qui est vraiment dans cet amour, et de diminuer cette part de diversion et de diversité dont on nous a abreuvé, dont on nous a assommé et éduqué depuis notre tendre enfance, en fait.
Ouais, mais je pense que justement, tu vois, c'est ce qui me réjouit autant dans l'organisation du festival Limitless Project. C'est pas les conférences, c'est pas les ateliers, c'est vraiment cette notion de partage avec mes amis, mais aussi d'essayer de réunir les ingrédients nécessaires à ce que parmi les auditeurs qui participent, y ait la création de ces liens qui peut-être, je l'espère, perdureront après et peut-être les suivront toute leur vie, parce que j'ai la chance de savoir ce que ça vaut. Et donc, si je peux favoriser, catalyser ce type de réaction en réunissant des gens passionnés au même endroit, eh bien, je suis content de pouvoir le faire.
Mais c'est exactement ça. Hein. Et moi, tu vois, pour en revenir juste à... Parce qu'on se rejoint finalement. L'idée de l'académie, donc, est de faire justement cette formation uniquement présentielle. Il est lié justement à ça. C'est-à-dire que ce qui va être fondamental, au-delà de ce qui va être transmis, c'est les échanges qui vont avoir lieu. Tu vois, c'est les gens qui vont venir et qui vont se retrouver. Donc, des gens qui, du coup, ça me remplit de joie, parce que de me dire qu'il y a des gens qui vont se rencontrer lors de cette formation, de cette académie, et qui n'auront probablement jamais eu l'occasion de se rencontrer sans ça, et qui vont du coup pouvoir syntoniser, harmoniser des choses, et donc découvrir des choses, et donc permettre à de nouvelles choses d'émerger et de créer même de nouveaux projets s'il faut. Mais c'est ça, en fait, la vie. C'est ça. Donc, pour moi, l'académie, même si le contenu et la formation, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable en 2023, vraiment, c'est surtout et avant tout une excuse pour rassembler des gens. C'est surtout ça. Parce que je pense que les gens, par la suite, vont pouvoir se réapproprier tout ça, et je pense que tous ensemble, c'est-à-dire, c'est pas moi. Moi, c'est les gens donc les académiciens qui vont s'approprier ça, et on va tous ensemble faire quelque chose d'incroyable. J'en suis sûr. Et déjà, quand je vois les premières candidatures, quand je vois le courrier que je reçois, mais j'ai tellement hâte. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui, à mon âge, avec tout ce que j'ai appris, avec là où j'en suis de ma vie aujourd'hui, de pouvoir être dans cet état pour transmettre ce que j'ai à transmettre et de pouvoir moi-même m'inspirer de tout ce que les gens qui vont participer à ça vont pouvoir faire naître. Donc c'est pour moi, c'est ça, la vie, vraiment.
Justement, parlons-en, j'ai envie de te rejoindre. Quel est le processus?
Le processus pour
te rejoindre?
Ah, pour l'académie. Alors il y a le site internet, tout simplement. Donc le site internet, c'est homeorésieduvivant.fr. Donc c'est tout attaché. Donc je sais pas si tu pourras mettre un lien, toi.
Oui, donc il y aura un article lié avec les meilleures citations du podcast. Je mettrai le lien vers le site, la brochure, et puis je mettrai aussi le lien vers, parce que tu m'as dit que il y aurait la retransmission de la conférence que tu avais animée au Festival du Potentiel Humain notamment ce système nerveux intracardiaque dont on a un petit peu parlé en début de podcast. Donc je mettrai aussi le lien pour les auditeurs qui souhaitent aller l'écouter, et je le recommande grandement.
Exactement. Et voilà, donc sur le site, donc vous avez absolument tout, vous avez la présentation, l'accès pour la candidature. Et si vous voulez juste envoyer un mail parce que vous avez des questions, vous avez aussi homeorésieduvivant@gmail.com comme adresse mail, et dans lequel vous pouvez simplement poser des questions. Mais sur le site internet, vous aurez vraiment toutes les informations pour pouvoir voir quelle est la philosophie, la démarche de l'académie, et voir toutes les programmations, en sachant que cette première programmation de 2024, c'est vraiment c'est le socle, en fait. C'est le socle sur lequel on va bâtir tout le reste.
Quel reste ?
Eh bien, toutes les autres formations, en fait. Parce que, à l'image de ce que je t'ai, de ce que je t'ai dit, l'idée, ça sera à partir du moment où on aura redéfini les termes et qu'on saura véritablement de quoi on parle quand on parle de ce dont on parle, on va pouvoir mesurer les implications dans tous les paramètres. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, réétudier les différents systèmes. Par exemple, quand tu prends les bouquins de physio, comme celui du Marieb, eh bien, on va les réactualiser. C'est-à-dire que, on donnait l'exemple justement de la partie neurocardiaque. Eh bien, comment est-ce qu'on réactualise nos connaissances aujourd'hui? Comment on réactualise un Marieb par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui?
Donc, voilà. Tu auras des éditions 2, 3 et 4 les années suivantes?
Alors, non, c'est simplement que moi, je vais probablement faire venir des gens qui travaillent justement dans ces domaines-là pour nous expliquer un petit peu sur quoi ils travaillent et quel est ce que l'on sait vraiment à la pointe des choses aujourd'hui. Et on va le comparer par rapport à ce qui est dit de façon académique, mais tu vois, dans les livres, et voir quel est l'écart. Et donc, de dire, bon, ben, aujourd'hui, on peut plus dire ça. Il faut plutôt le voir comme ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir, et ça, on va le faire, en fait, pour tous les systèmes. On va revoir le système nerveux, on va revoir le système endocrinien, le cardiovasculaire. En fait, d'ailleurs, on va l'étendre. On va l'étendre. C'est-à-dire que le Marieb se consacre, si tu veux, uniquement à ce qui est à l'intérieur du corps. Mais on va voir que si on veut comprendre le corps, il va falloir l'étendre, il va falloir aller voir ce qu'il y a aussi au-delà.
Et ça s'adresse plutôt au cheminement de personnes de professionnels de la santé ou bien à des gens qui veulent explorer leur développement personnel entre guillemets.
Ouais, l'objectif justement de cette académie, c'était de donner accès à ça en fait à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les personnes qui aujourd'hui ont une véritable envie d'apprendre et de se réapproprier du savoir et d'être dans une démarche d'autonomie de pensée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui n'a aucun diplôme, qui a tout ceci, cela, qui n'y connaît pas grand-chose, en fait, si elle a envie, elle peut parfaitement y accéder. Parce que justement, la première formation elle fait les bases, en fait. On reprend les bases. Donc, pour ceux qui ont déjà les bases, ben en fait, on va juste les réactualiser parce qu'on va voir que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes. Donc, du coup, on va corriger tout ce que l'on croit savoir. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh ben ils vont directement apprendre ce que l'on sait vraiment aujourd'hui. D'accord ? Et donc, cette base, après, va permettre à tout un chacun, c'est-à-dire la personne qui n'est pas un professionnel, eh ben ça va lui permettre, elle, de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, que ce soit pour sa santé, mais que ce soit aussi pour faire du sport, pour n'importe quoi, parce qu'elle aura vraiment des outils pour mesurer les implications des choix qu'elle fait. D'accord? Et par contre, pour les professionnels de santé, bon ben là, eux encore plus, c'est-à-dire que non seulement ça leur servira à eux personnellement, pour leur quotidien, mais ça va bien évidemment être bénéfique pour toutes les personnes qu'ils vont encadrer, qu'ils vont conseiller, qu'ils vont soigner.
Super. Bah écoute, ça donne vachement envie en tout cas. Bon, t'aurais un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project?
Un prochain invité que j'aimerais entendre. Alors ça dépend parce qu'il y a beaucoup de gens moi que
j'aimerais entendre. Tu peux m'en donner
trois. Trois personnes. Alors dans quel domaine?
Pour explorer le potentiel humain, les déterminants de la performance humaine, physique, intellectuelle, la recherche d'une expérience de vie intense et aligné.
Ah, parce qu'il faut que ce soit quand même des gens qui ont
des athlètes, des entrepreneurs, des scientifiques, des médecins.
Je reciterai les personnes dont on a parlé hein, déjà, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment des personnes qui ont changé qui ont complètement bouleversé, si tu veux, la donne, qui ont créé une véritable révolution dans notre façon de voir les choses. Donc il y a évidemment il y a Bruce Lipton hein, dans ce travail au niveau par rapport à l'épigénétique. Après, une personne qui pourrait être très 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 intéressante dans son domaine aussi, c'est Nassim Haramein. Dans l'approche qu'il a en fait du trou noir, il y a une originalité qui vaut la peine en fait d'être décortiqué pour pouvoir justement cheminer. Tu te rappelles, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand tu parlais de la personne qui avait décidé de poser le postulat que effectivement le vieillissement n'était pas un processus naturel intrinsèque, mais que c'était la conséquence ou le symptôme d'une maladie. Bon, mais Nassim Ahmed, dans une certaine façon, il a fait un peu la même chose, et c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Donc il y a vraiment, ça donne des perspectives, ça donne des choses, et sans compter qu'il a des résultats théoriques extrêmement probants. Donc il fait partie vraiment des personnes qui mériterait d'avoir une visibilité, je dirais, un tout petit peu plus importante. Et après, bon, je dirais dans le domaine des mathématiques, j'aurais adoré moi interviewer quelqu'un, mais qui malheureusement n'est plus de ce monde. Donc je sais pas si je peux te le donner quand même.
Mais oui, tu peux quand même nous donner.
Mais alors ce personnage, donc on en parlera effectivement dans le cadre de l'académie, c'est Alexander Grothendieck. Donc c'est un mathématicien français qui est vraiment qui est à la tête d'une révolution mathématique au sein de ce qu'on appelle, donc c'est une branche des mathématiques qu'on appelle la topologie. Et c'est un personnage vraiment, vraiment, vraiment incroyable parce qu'il était extrêmement impliqué philosophiquement, politiquement aussi. Et du coup, il nous obligeait, si tu veux, à prendre du recul et à réfléchir sur les implications de la recherche. Et du coup, sa vie est quand même assez atypique parce qu'il a décidé d'arrêter la recherche alors qu'il était à la pointe de cette recherche. Il travaillait à l'université de Montpellier. Il a décidé de tout laisser tomber du jour au lendemain parce qu'il considérait que les implications de ce qu'il découvrait n'étaient pas, en cohérence avec sa philosophie. Ce qui est incroyable parce qu'au départ, ce n'est pas ce qu'on demande en fait à de la recherche. Si tu veux, la science ne nous dit pas ce qu'on doit faire de la science.
Bien sûr.
Tu vois, sinon, ben justement, effectivement, la bombe atomique et la bombe H ne seraient jamais apparues. On l'a bien vu, tu vois, avec Oppenheimer. Et donc, cette démarche l'a amené à avoir des réflexions philosophiques extrêmement profondes qui en disent long justement sur cet aspect du potentiel humain. Donc, il a écrit un ouvrage qui est extrêmement ardu à lire, mais qui est passionnant, qui s'appelle justement Récolte et semaille. Et dans lequel justement il aborde toutes ces idées.
Merci pour ces nouvelles voies d'exploration. En écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que tu as passé un bon moment et avec quelle énergie est-ce que tu vas poursuivre cette journée?
Ah bah écoute, j'ai passé un très bon moment hein, parce qu'on a vraiment à partir du moment où je suis dans le lien, où je suis dans l'échange, moi je passe toujours un bon moment. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment y mettre de la mauvaise volonté pour que ça se passe mal. Donc merci infiniment à toi, c'était un moment très 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 agréable. Dans quelle énergie je suis là? Tu vois, je suis un petit peu dans la même énergie que lorsque je fais du sport le matin. Tu vois, une petite décharge d'adrénaline, de noradrénaline, et du coup, je flotte un petit peu là sur un petit nuage parce que je sens que ce qu'on a échangé était nourrissant pour moi parce que je pense que c'était des notions qui étaient importantes pour moi hein. Et donc c'est quelque chose qui m'a nourri. Et le fait d'avoir pu partager ça d'autant plus avec toi, parce qu'on l'a on ne l'avait jamais fait auparavant, on n'avait jamais eu la chance de pouvoir échanger sur un quelconque sujet. Donc pour moi, c'est encore plus enrichissant et nourrissant. Donc merci beaucoup.
Eh ben écoute, je te rassure, ça a été extrêmement nourrissant pour moi aussi. Tu vois, malgré le fait qu'on soit par écran interposé, moi je rentre un petit peu dans cet état de flow. Ce que tu dis d'une part me passionne et en plus est assez original dans le bon sens du terme, dans le sens exubérant, dans le sens qui on sort de la moyenne justement, on joue avec cette homéostasie en allant chercher un petit peu les hauts et les bas et puis on fait une petite hormèse mentale tout en restant accessible et on crée des ponts entre différents domaines, différents secteurs, différentes pensées, entre c'est notre ça. Vie quotidienne, cette parentalité qui nous anime tous les deux et puis la science parfois dure, parfois théorique, parfois pratique et ça c'est un petit peu l'histoire de la vie en tout cas telle que je suis en train de la découvrir aujourd'hui et ça m'a donné très envie de rejoindre ton école, je pense que plusieurs de nos auditeurs aussi. Donc un grand grand merci Pierre pour ce partage.
Merci
et puis un grand merci encore une fois pour la conférence que tu avais tenue à ce festival qui m'a beaucoup marqué et qui a effectivement été très émouvante et qui fait partie des choses marquantes que j'ai vécues cette année. Donc là j'ai l'occasion de te remercier publiquement, alors je le fais.
Avec grand plaisir. Si je peux juste mentionner une toute petite dernière chose parce que ça m'y fait penser. Juste un petit détail pour ceux qui iront voir la vidéo justement de cette conférence du potentiel humain, parce que effectivement, bon, comme vous le verrez, sans vous spoiler évidemment, David le sait, mais ceux qui vont le découvrir non. Il y a un petit moment dans cette conférence où j'ai un moment de faiblesse. Et beaucoup de gens en fait ont cru qu'il s'était passé quelque chose de grave ou quelque chose de négatif. Parce que justement, j'ai eu un moment où je n'arrivais plus à continuer, parce que bon, et vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a absolument rien de grave ou de négatif. C'est tout l'inverse en fait. J'ai été tellement submergé par la gratitude et par la joie. Et comme c'était un moment, vous verrez que justement en amont, je parlais du cœur. Mais en fait, c'est un moment où j'ai revécu ce que je voulais expliquer dans le cœur intégralement. Et ça m'a foudroyé, mais par amour, en fait. Ça m'a foudroyé par amour. Et je n'arrivais plus à remonter dans le mental. J'arrivais plus à retrouver le chemin, en fait, pour pouvoir assurer la suite de la conférence. Donc, le public a été extrêmement bienveillant. Ça a été un moment magique. Mais par contre, voilà, juste pour que vous sachiez que vraiment c'était, au contraire, c'était un moment de, mais je pense que je n'ai jamais été aussi à nu devant tout le monde, et ça a été l'un de mes plus beaux moments, vraiment. Je suis ressorti de là, mais avec une gratitude infinie d'avoir pu ressentir et d'avoir pu vivre ça. Voilà, c'était juste pour prévenir les gens qui verront la conférence.
Merci Pierre, j'ai été honoré de partager du coup ce grand moment de ta vie.
Merci beaucoup, merci à toi d'avoir été là et d'être encore là, hein, pour pouvoir diffuser et partager sur ces choses qui sont tellement importantes pour nous.
Merci, puis je suis sûr qu'on aura plusieurs occasions de se revoir, cette fois-ci physiquement, cher en os dans les semaines à venir.
Avec grand plaisir.
Merci Pierre, belle journée.
Merci à toi David, merci beaucoup.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.